Prie pour moi. Bonjour mes amis, c'est un privilège d'être ici ce matin au service du Seigneur et de ressentir cet accueil merveilleux et cette communion fraternelle. Ça touche vraiment le cœur d'un voyageur de ressentir cet esprit accueillant. Vous savez, vraiment ça se sent et c'est quelque chose. Il n'y a rien pour remplacer ça. Et d'être de retour au tabernacle de nouveau et au service de notre cher Seigneur. Et maintenant, nous avons un service de consécration des bébés, mais je pense qu'on va peut-être faire ça dans quelques instants. Pâques approche. Je pense que ça tombe autour du 21, et je voulais arriver de bonne heure pour voir les anciens et Frère Neville. Et au sujet de... peut-être qu'il serait bon qu'on ait une petite série de réunions ici, juste avant la réunion de Pâques. On pourrait peut-être commencer, disons, le mercredi, et continuer jusqu'au dimanche, et finir par un service de baptême le dimanche de Pâques. Et avoir une petite réunion entre nous. Ce petit tabernacle ici a été mon berceau. C'est ma première et ma seule église. Alors, j'aimerais tout simplement y revenir pour la semaine sainte et adorer le Seigneur avec vous tous. Est-ce que tous seraient d'accord de faire ça? Pensent que ce serait vraiment la volonté du Seigneur? Eh bien, si le Seigneur le veut, nous commencerons le mercredi qui précède le dimanche de Pâques. Et j'aimerais dire, on pourrait peut-être demander au trésorier ou à l'administrateur et aux autres s'ils voudraient bien faire paraître une petite annonce dans le journal ici quelque part. Dire aux enfants que nous sommes ici pour adorer et que nous aimerions beaucoup avoir un peu de communion fraternelle avec eux tous. Un peu comme un retour à la maison et une préparation pour... Peut-être que le Seigneur nous donnera une résurrection d'une plus grande portion de son esprit pour ces Pâques-ci. C'est comme l'automne et le printemps. Je trouve que le printemps, c'est vraiment une très belle période où tout se met à prendre une forme nouvelle et une vie nouvelle. Et ça nous rappelle la résurrection. Pâques arrive à un moment tellement bien choisi, au printemps. Si nous remarquons, la parole de Dieu est toujours en continuité parfaite avec sa nature et tout. Alors nous, si le Seigneur le veut, donc nous commencerons. Et si on veut bien faire paraître une petite annonce, comme je disais dans le journal, et pas de tape à l'œil là, dites simplement aux gens que nous voulons adorer le Seigneur ensemble et que nous aimerions vraiment que tous ceux qui en ont envie viennent fraterniser avec nous un petit moment. Nous serons contents qu'ils se joignent à nous, toutes les églises. Téléphonez à vos voisins pour leur en parler. Dites-leur que nous allons simplement parler du Seigneur et simplement l'adorer tous ensemble. Je vais m'avancer un peu. Si ça fait plaisir aux gens et que c'est agréable à Dieu et que le trio est d'accord, j'aimerais que le trio Neville nous donne un coup de main pendant cette période-là. Est-ce que vous n'êtes pas du même avis? C'est exact. Alors, on verra à s'occuper d'eux pour ça si le Seigneur juge bon qu'on aille de l'avant. Alors, nous invitons d'autres chanteurs de différentes églises à être des nôtres et à nous donner un coup de main en cours de route. Les chanteurs de votre église, ça nous fera plaisir de les avoir avec nous. Voyez Frère Neville, peut-être la veille, pour qu'on puisse les insérer au programme qu'ils chantent pour nous. Nous aimons entendre de beaux chants. J'aimerais vraiment avoir un bon moment de retour à la maison, à l'ancienne mode, où on est tous ensemble simplement. Et faire venir Angie, ou est-ce que Sœur Angie est ici ce matin? La faire venir, pour qu'elle et Sœur Gertie nous chantent le moment du retour à la maison. Une fois, et tiens bon. Et avec ça, on aurait l'impression d'être au début d'un réveil, de nouveau, Sœur Gertie. Il en a coulé de l'eau sous les ponts depuis l'époque où nous chantions ça ici. C'était mon anniversaire de naissance hier, et je sais que je ne suis plus un jeune homme. J'ai dit, j'ai plus de 24 ans maintenant. Alors, celles-là, ce sont seulement mes années. Je ne compte pas celles depuis ma naissance littérale, naturelle et physique. Je compte seulement mes années spirituelles. Vous voyez? Il y a environ 24 ans, je suis né de nouveau. Et ça c'est éternel. Et celui-là est un anniversaire de naissance glorieux, béni. Et on ne sera jamais à court de cela. Ça, c'est sûr. J'aimerais que Sœur Gertie, si elle le veut bien, avant que nous fassions venir les tout-petits devant pour la consécration des bébés. Or, très souvent, dans la Bible, nous voyons que le seul endroit, à ma connaissance, dans l'Écriture, où nous avons une directive quant aux bébés. Bon, bien des gens les aspergent, vous savez, et ils appellent ça un baptême et tout. Et il n'y a pas de mal à ça. Mais moi, j'essaie toujours de... J'aime m'en tenir à la façon dont la Bible dit, vous savez. Et dans la Bible, il ne baptisait jamais les petits-enfants. Il ne les aspergeait pas non plus. Il les amenait seulement à notre Seigneur. Et lui, il les prenait dans ses bras et les bénissait. Il disait, « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Le plus étrange, là, c'est que je viens d'ouvrir ma Bible à l'endroit précis où ça se trouve, Marc 10. C'est en plein là, devant moi. Donc, le Seigneur amenait les petits-enfants, on lui amenait les petits-enfants, et les bénissait simplement, et il disait, « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume est pour ceux qui leur ressemblent. » Maintenant, nous savons que notre Seigneur s'en est allé dans la gloire, et que son esprit est revenu dans l'Église pour continuer à porter le message jusqu'à son retour. C'est ce que nous attendons. Alors, la façon dont nous procédons ici, c'est que nous faisons tout simplement venir les tout-petits, et nous faisons venir les anciens de l'Église. Je prends les tout-petits et je les consacre au Seigneur. Je trouve que c'est un petit service tout à fait charmant de voir ces petits bouts de chou. En effet, c'est si jeune que nous soyons, si vieux que nous soyons, il reste qu'un de ces tout-petits-là a une place dans notre cœur. Pas vrai? Or, quand nous venons à Dieu, c'est exactement comme ça que nous sommes au cœur de Dieu. Nous ne quittons jamais ce stade-là. Nous sommes toujours des petits-enfants. Abraham, à l'âge de 99 ans, pour Dieu, il n'était encore qu'un petit bébé. Dieu lui a dit, il a dit, « Je suis le Saint qui te nourrit, Abraham. Tu vois, tu n'as qu'à t'appuyer contre moi. Nourris-toi et tout ira bien. » Et il a changé Abraham, il l'a fait redevenir un jeune homme, par le simple fait qu'il s'accrochait à sa parole. Et nous chantions un petit chant, je crois. « Amenez-les à l'intérieur. Amenez vos tout-petits devant maintenant, vous qui voulez les consacrer. » Je vais demander aux anciens de bien vouloir s'avancer aussi. Très bien. Oh, comme j'aime voir ces tout-petits. Alors, comment vous appelez-vous? Elle s'appelle comment? La petite Sharon Louise Riddle. Et je suis sûr que nous aimons tous frère et sœur Riddle. Nous connaissons frère Riddle ici. Il tient le magasin de chaussures et de bottes ici en ville. Et ils ont un petit bébé tout à fait mignon ici. La petite Sharon. Sharon Louise. Sharon Louise Riddle. Quel âge a-t-elle, frère et sœur Riddle? 4 mois. Oh là là, c'est une petite idole du cœur, n'est-ce pas? Alors le Seigneur vous a donné ce charmant petit être, et maintenant vous la lui consacrez, vous la placez dans ses bras. À Dieu qui vous l'a donnée, vous la lui retournez, vous la lui donnez, pour qu'il bénisse sa petite vie et qu'il en fasse une vie de service, et qu'il en fasse... Prions Dieu de faire d'elle une enfant qui bénira votre cœur quand vous serez vieux. Et si Jésus tarde, qu'elle soit une grande travailleuse pour Dieu. Et vous serez fiers de cette petite fille. Que Dieu l'accorde maintenant, alors que nous la prenons pour la bénir. Je voudrais que toutes les dames, et évidemment les hommes aussi, regardez ce beau petit bébé. N'est-ce pas qu'elle est mignonne? La petite Sharon. Maintenant, courbons la tête. Notre cher Père Céleste, dans la précieuse parole, nous lisons qu'on t'amenait des petits-enfants pour que tu leur imposes les mains et que tu les bénisses. Et maintenant, ce couple ce matin, par leur union dans le mariage, tu leur as confié cette charmante enfant, la petite Sharon Riddle. Nous te prions, cher Père Céleste, de bénir cet enfant, alors qu'ils viennent ce matin pour la consécration, pour redonner le bébé à celui qui l'a donné. Et je te demande, ô Dieu, de les bénir, de bénir leur vie. Et que cette petite enfant vive, qu'elle grandisse et soit en parfaite santé, et qu'elle soit ta servante, et qu'elle soit une femme selon le cœur de Dieu, et selon le cœur de ses parents. Accorde-le, Seigneur. Et maintenant, en tant que ton ancien, nous élevons l'enfant vers toi. Comme ils l'ont placé dans mes mains, je l'élève vers toi. Au nom de Christ, puisses-tu bénir ce bébé. Et qu'elle vive, qu'elle grandisse, qu'elle soit robuste et en bonne santé. Et qu'elle soit une servante de Dieu. Nous le demandons alors que nous te la présentons au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu te bénisse, petite chérie. Tu es un petit bébé vraiment mignon. Que Dieu vous bénisse tous les deux. Et puissiez-vous avoir beaucoup de joie à élever cette petite fille. N'est-ce pas que ce sera un moment merveilleux? Maintenant, courbons la tête un petit instant pour prier. Ô Dieu, qui a formé les cieux et la terre, celui qui a simplement laissé sortir son souffle avec sa parole, et tout a pris sa position correcte. La terre, la lune, les étoiles, tout s'est mis en place, comme Dieu soufflait sur sa parole. Et, ô Dieu, aujourd'hui, nous te demandons de souffler sur ta parole, comme nous essayons de la porter aux gens, qu'elle prenne sa position ce matin, sa place, qu'elle s'enracine et se fonde dans chaque cœur, pour que chaque personne qui est ici puisse recevoir tes bénédictions. Aide ceux, Seigneur, qui sont sortis du chemin, qui sont infirmes et boiteux en esprit. Eux ne te connaissent pas comme un sauveur rempli d'amour, comme nous en avons eu le privilège. Nous te prions de les bénir abondamment aujourd'hui, et qu'en repartant de ce bâtiment, ils soient heureux et se réjouissent de cette découverte du Christ, dont ils auront fait la connaissance au cours de cette réunion. S'il y a des gens qui s'éloignent, qui glissent vers les soucis de ce monde, ô Dieu, ramène-les. Et ceux qui sont malades et dans le besoin, Père, nous prions pour eux que tu guérisses chaque malade ici aujourd'hui. Encourage ceux qui sont abattus et bénis ceux qui tiennent bon fidèlement. Accorde-le, Seigneur, que ton esprit repose sur tous. Bénis la parole alors qu'elle sortira, celui qui la prononcera et celui qui l'entendra. En somme, reçois toute la gloire de ce rassemblement de ce matin, car nous le demandons au nom de Christ. Amen. Maintenant, je n'ai pas encore tout à fait récupéré de la longue série de réunions qui dure depuis environ 4 mois. Et les réunions de ces 5 dernières semaines ont été particulièrement épuisantes. En effet, nous avons eu des réunions merveilleuses d'un bout à l'autre du pays, là, de New York jusqu'à San Francisco. Nous avons sillonné le pays tout entier. Nous l'avons parcouru en zigzag. Et le Seigneur a sauvé bien des centaines de gens. Rien que dimanche dernier, il y a une semaine de ça, notre cher Père Céleste, j'ai vu entre 1 000 et 1 500 pécheurs se repentir du même coup à l'autel, à Oakland, en Californie, dans le grand stade. Il était plein à craquer. On a été obligé de mettre des sièges au centre du stade, au centre, au lieu des côtés. Et le Seigneur a vraiment béni. Et là-bas, nous avons eu le grand tremblement de terre, comme vous en avez entendu parler. Et c'était la première fois que mon épouse vivait cela. Elle avait les jambes un peu molles après. La secousse a été très forte. Le bâtiment a été ébranlé. Et la poussière volait. Et les bouteilles sur... Nous étions dans une pharmacie à jeter des cartes postales pour les envoyer chez nous. Et les bouteilles ont été secouées. Et la cheminée est tombée. Et les grands bâtiments valsaient ensemble. Des routes se sont fendues. Et quelques-unes se sont enfoncées. Et tout cela nous remet en mémoire que l'Écriture est sur la muraille. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Ce jour-là, il y a eu 8 tremblements de terre dans cette même ville. Et puis, vers 10h du soir, nous venions d'arriver, ou 10h30, et nous étions au lit. Et là, la lampe qui était au centre de la pièce a failli basculer et tomber, sous l'effet d'un autre violent tremblement de terre. Tout cela nous montre que 8000 milles au-dessous de nous, il n'y a que de la lave rouge brûlante. Et c'était juste au moment où on a annoncé que nos agresseurs de l'autre côté de la mer déclarent qu'ils interdisent aux gens d'entrer en Scandinavie et tout, qu'ils les anéantiraient avec des armes atomiques. Et on se demande ce qui se passerait s'ils se mettaient à lancer ces bombes et à faire éclater ces endroits-là dans la terre, alors que cela produirait exactement ce que Dieu a dit que cela produirait. Plus d'eau, mais le feu cette fois. Alors, voilà qui met de la joie au cœur de celui qui est dans l'attente, qui attend la venue du Seigneur et leur bénit, où ces vieux corps de notre humiliation seront transformés et rendus semblables au corps de sa gloire. Et nous le verrons, plus de lutte, plus de chagrin, plus de vieillesse, plus de jours infinis, plus de faim, plus de tracas, plus de maladies, plus de morts. Oh, nous ne pouvons tout simplement pas en saisir la profondeur. Je vous le dis, mon ami. C'est difficile parce que nous sommes des humains et que la mort, c'est quelque chose vraiment que nous détestons tous affronter. Mais c'est un soulagement béni, c'est une chose bénie de savoir qu'il viendra un jour et que ces choses-là seront changées. Maintenant, rappelez-vous et parlez à vos, particulièrement à vos amis pêcheurs là, pour qu'ils viennent aux réunions, à ces réunions de réveil que nous allons faire. Maintenant, juste pour vous parler un peu, ma gorge, comme je le disais, n'est pas encore tout à fait dégagée et je suis encore un peu fatigué. Mais je me suis reposé cette semaine, j'ai même évité le téléphone et tout, pour pouvoir prendre quelques jours de repos. Et puis, la semaine qui vient, je veux récupérer un peu, si possible, et ensuite me préparer pour le petit réveil. Ensuite, je pars au Canada, et du Canada, je reviens à Indianapolis, d'Indianapolis, ensuite à Chicago, et de Chicago, ce sera le Congrès international des hommes d'affaires chrétiens. Et ils m'ont préparé tout un horaire. Alors, priez pour moi là, et particulièrement pendant ce réveil, pour que Dieu me dirige. Une tournée à travers le monde entier qui commencerait en juin et pour revenir en novembre, ou plutôt en juillet. Il s'agit d'aller en Europe, en Asie, de descendre dans les îles et outre-mer, et revenir par la côte ouest, partir à l'est, et faire un tour complet du monde et revenir par la côte ouest. C'est vraiment un temps de besoin. Et il y a quelque chose qui m'arrête un peu là. Je ne sais pas si c'est quelque chose sur la route ou quoi, je ne sais pas. Mais priez pour moi. Et sûrement que Dieu arrangera tout pour le mieux. Maintenant, il y a 2 passages de l'Écriture que j'ai choisi de lire ce matin, vu que les gens viennent pour qu'on prie pour eux. C'est seulement un petit moment où on va prier pour les malades et pour ceux qui sont dans le besoin. Et j'aimerais simplement apporter un petit enseignement sur la parole. Ensuite, peut-être que si le Seigneur le veut ce soir, peut-être qu'on ne fera pas seulement enseigner, mais qu'on prêchera un peu la parole. Maintenant, j'aimerais lire 2 passages, et les 2 se trouvent dans l'Ancien Testament. L'un, c'est dans Nombre, chapitre 13, et au verset 30. Et l'autre, c'est dans Josué, chapitre 1er, et au verset 9. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Et puis dans Josué, le verset 9 du chapitre 1er, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. » Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à sa parole. J'aime vraiment beaucoup la parole. Et si je devais donner le sujet de ce matin, je voudrais trouver le contexte ici, un texte intitulé « Dieu tient sa parole ». Maintenant, nous pourrions vraiment rester là-dessus pendant des semaines, faire un réveil d'un an, et ce serait tout aussi nouveau à la fin qu'au commencement, ce sujet de « Dieu tient sa parole ». Il y a une seule chose que Dieu ne peut pas faire. Y avez-vous déjà pensé? Il y a une seule chose que Dieu ne peut pas faire, c'est faillir. Il peut tout faire sauf faillir, mais il ne peut pas faillir. Alors, si notre très sainte confiance est fondée ce matin sur cet être merveilleux qui peut faire tout ce qui se peut faire, sauf faillir, combien de confiance devrions-nous avoir en sa parole éternelle? Mon cœur a été touché au cours de la dernière année, après avoir regardé ce qui se passe dans les nations et vu la tournure que prennent les événements et les petits ismes qui s'élèvent. Tout cela me rappelle bien ce qui a été écrit là, dans la pierre angulaire, le matin où nous avons consacré ou posé la pierre angulaire. Quand le Seigneur m'a réveillé, je ne savais pas ce qu'étaient des visions à cette époque-là. Je regarde la cheminée sur la maison, à 5 pieds ou plus de l'endroit où j'étais assis quand la vision est venue, il y a 23 ans, en 1933. Il doit y avoir environ 24 ans de ça, je pense. Je regarde la cheminée en ce moment même. C'était longtemps avant que je me marie. J'étais célibataire et à la maison. Nous construisions cette église et nous allions poser la pierre angulaire ce matin-là où le Seigneur m'a donné la vision. Je m'étais réveillé et je regardais par la fenêtre. C'était en juin et les chèvrefeuilles ou les boutons étaient en fleurs. Et là, il semble que je suis allé me promener à pied ou quelque chose. Et j'ai vu le Seigneur Jésus et j'ai vu mon tabernacle. Il m'a déclaré que ceci n'était pas mon tabernacle. Il m'a placé sous le ciel. Beaucoup d'entre vous connaissent la vision, parce qu'elle est écrite et publiée, et je crois que c'est la 4e ou 5e édition. Près de 100 000 livres ont été imprimés, en 17 langues différentes. Et observez comme la chose s'est accomplie, mot à mot, ça n'a absolument jamais failli. Nous nous sommes assemblés, un charmant petit groupe de gens, et le Seigneur nous a vraiment bénis. Et puis, d'un endroit à l'autre, pour finalement se retrouver sur le champ d'évangélisation. Et maintenant, ça s'est propagé dans le monde entier. Et le temps est venu où ces choses-là se sont produites, que le monde se donnerait des docteurs, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, et que la vérité serait rejetée, et on se tournerait vers les fables. Et puis là, ce qu'il a dit, « Prêche la parole. » Tiens-t'en à la parole. Et s'il y a une chose que j'ai essayé de faire, c'est de m'en tenir à la parole éternelle de Dieu. Nous vivons aux dernières heures de la dispensation de ce monde. Je ne vois pas comment quelqu'un peut regarder, rien que jeter un coup d'œil aux journaux ou allumer la radio sans se repentir. Je ne vois pas comment. Nous sommes vraiment à la veille d'un événement d'importance. C'est sur le point d'arriver. Même la nature le montre. Le monde s'agite. Il fait jaillir ses matières volcaniques et il souffre d'effondrements nerveux. Les grands tremblements de terre qui secouent et qui fondent les routes et les choses qui font peur à voir, comme les soucoupes volantes et des missiles qu'ils peuvent projeter d'un bout à l'autre de la terre pour détruire, anéantir une nation en 5 minutes. Nous sommes au temps de la fin. Quelque chose est en train. Il n'y a pas moyen d'empêcher ça. Il n'y a aucun moyen. Il n'y a qu'un moyen de s'en sortir, c'est de monter. Il n'y a aucun moyen, inutile de chercher à se cacher. Il n'y a qu'une seule retraite. Comme les petites filles chantaient autrefois, ici, quand je n'étais qu'un jeune prédicateur. Elles chantaient, « Il n'y a aucune retraite ici-bas. Je suis allé au rocher pour me cacher la face, mais les rochers ont crié, « Il n'y a aucune retraite ici-bas. » Mais il y a une retraite. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Comme nous sommes heureux d'avoir cette retraite au temps de la fin. Et alors que nous regardons autour de nous et que nous voyons ces grands signes en mouvement, et au cours des réunions de réveil que nous aurons prochainement, si Dieu le veut, je voudrais retourner jusque dans la Genèse et faire ressortir ces grands points saillants, comme quoi nous sommes à la fin, nous en sommes là. Je crois que la génération actuelle qui est sur terre en ce moment est celle qui verra la venue du Seigneur Jésus. J'ai 48 ans, il se peut que je ne la voie pas, je ne sais pas. C'est peut-être pour demain, mais je crois qu'il y a des gens ici qui verront la venue du juste, la fin du temps. Et je crois que la plupart d'entre nous, surtout ceux qui sont dans cette église ce matin, ne mourront jamais de vieillesse avant d'avoir vu une des choses les plus horribles qui soit jamais arrivée à un peuple, arriver ici même dans ce pays. C'est la vérité. Frères, nous avons fini par dépasser les frontières de la miséricorde, si bien qu'il ne reste plus que le jugement. Mais le juste n'aura pas à être puni avec l'injuste. Dieu viendra, Jésus rachètera son Église, et nous monterons le rencontrer dans les airs. Et là, nous serons bien au-delà de toutes les bombes et de toutes les détresses, et nous serons protégés pendant cette période-là. Alors, mes enfants, revenez à votre Dieu rapidement. N'ayez aucun lien avec le monde, en aucun cas. Ne vous mêlez pas à ce monde moderne. Ne vous mêlez pas à ces théologies modernes. Comptez seulement sur l'agneau de Dieu. Lisez votre Bible et priez tout le temps. Ne soyez pas abattus. Réjouissez-vous, soyez heureux, car la rédemption de l'Église est proche, le moment où nous verrons celui qui est mort pour nous. Notre texte présente un tableau qui correspond un peu à l'époque actuelle. Pour commencer, dans le premier passage de l'Écriture que je lisais dans Nombre, il était question d'un peuple qui avait été appelé à sortir d'une grande nation puissante, qui allait recevoir et qui avait reçu son jugement. Je voudrais que vous compreniez que le péché ne restera pas impuni, qu'il se trouve dans une nation, ou dans une église, ou dans un foyer, ou dans un individu. Le péché doit être réglé par le moyen du jugement. Il n'y a pas d'autre moyen. Il ne peut pas être expié. Dire « J'ai mal agi, maintenant je vais agir comme il faut », ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas faire l'expiation vous-même, parce que l'expiation a déjà été faite. Il faut confesser que vous avez tort, et ensuite venir et marcher droit. Donc, des mesures doivent être prises à l'égard du péché, et Dieu répond toujours au péché par le jugement. Voilà pourquoi notre Seigneur a connu cette mort-là au calvaire. C'est parce que le péché, c'était quelque chose de si horrible que le jugement du péché a été placé sur lui, afin que ceux qui le désirent puissent être mis en liberté, en croyant en lui et en l'acceptant comme leur barrière contre le péché. Ça ne dépend pas de combien nous pouvons être bons, mais de ce que nous le croyons et l'acceptions. Et quand nous l'acceptons, il entre dans notre cœur. Et c'est cette partie-là qui est bonne. Ce n'est pas ce que nous pouvons faire. C'est ce que lui, il a fait. Et ce qu'il a fait pour nous. C'est pour ça qu'il a été blessé pour nos transgressions et brisé pour notre iniquité. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Or, ces gens-là étaient en Égypte depuis environ 400 ans. Et nous sommes tous au courant de ce grand moment où les enfants d'Israël étaient descendus là-bas. Et Dieu, là-bas, les avait livrés aux Égyptiens. Et ceux-ci les avaient maltraités, parce que la parole de Dieu avait dit qu'il le ferait. Or, Dieu avait promis à Abraham que pendant 400 ans, son peuple séjournerait dans un pays étranger. Et à l'approche du temps de la promesse, Dieu a déjà tout préparé pour l'accomplir. Oh, j'aime vraiment ça. Quand j'y pense, juste au moment crucial, il n'a pas une seule minute de retard. Il est toujours juste à l'heure. Si seulement nous pouvions être comme ça. Oh, nous essayons de devancer la chose. Nous essayons de la faire s'accomplir à notre heure. Mais nous ne pourrons jamais faire ça. Dieu l'a fait s'accomplir à son heure, à lui. Nous ne pouvons rien y changer. Hier, j'étais dans la cour de derrière de ma sœur qui habite à côté de chez nous, Sœur Woods. Nous observions un petit cocon qui s'était formé sur un arbre. Et le vent l'agitait d'un côté et de l'autre. Et elle racontait que dans le Streams of the Desert, je crois, elle avait lu un article sur le cocon. C'est un petit ver qui entre là-dedans et qui forme une petite coquille autour de lui pour se protéger pendant la saison froide. Mais quand le moment arrive, la personne qui s'occupait de ce petit ver, il voyait le petit cocon qui bougeait et qui se tortillait. Ils l'ont tellement pris en pitié qu'ils ont eu l'idée de couper le bout pour laisser sortir le petit insecte. Parce que quand il sortirait de là, il aurait des ailes. C'était un insecte ou un petit ver quand il était entré. Quand il sort, il a des ailes. Il est plus comme dans un état glorifié. Et comme il était là à se tortiller, à tirer, à donner des coups, à se démener, à mordre, en cherchant à sortir du cocon, ils l'ont pris en pitié. Donc, ils ont simplement eu l'idée de lui faire prendre un raccourci. Alors, ils sont allés chercher les ciseaux et ils ont coupé le bout. Et quand ils ont coupé le bout, le petit insecte est sorti. Mais il n'a jamais été comme il faut, parce que son corps n'avait pas de force. Il ne pouvait pas se servir de ses ailes. Et je pense que c'est comme ça que nous avons essayé de produire des imitations, dire « Venez donc à l'autel » et de dire ceci, cela ou autre chose, et d'essayer de ramener les gens à Dieu ou dans l'Église, ou de les amener à Christ. Laissez-les donc pleurnicher jusqu'à ce qu'ils s'en sortent, c'est tout. Travaillez-y jusqu'à ce que vous vous en sortiez, c'est tout. Si vous essayez de leur faire prendre un raccourci, ils ne sont jamais capables de se tenir debout. Moi, j'aime les voir se débattre et travailler jusqu'à ce que Dieu leur donne une vraie naissance, de la façon naturelle, qu'il leur donne la vraie naissance, simplement, simplement. Les gens disent, « Eh bien, mon chou, je pense que tu as assez prié. Restez donc là jusqu'à ce que vous soyez prêts à voler. C'est la seule chose. Dieu a sa façon de faire. Oh, eh bien, si tu veux être bon, tu n'as qu'à aller adhérer à l'église. Maman allait à cette église-là. Peut-être que ce serait très bien ça, mais savez-vous, il faut une mort pour produire une vie. Et nous devons mourir au point là d'être tellement morts qu'une vie nouvelle puisse entrer. À ce moment-là, nos ailes vaudront quelque chose et notre expérience que nous avons vaudra quelque chose pour les autres et pour nous-mêmes. Israël n'était pas prêt, mais Dieu était prêt. Et il avait fait naître un petit bébé du nom de Moïse. Et il était sur les lieux à l'âge de 40 ans pour faire sortir les enfants. Mais Israël n'était pas prêt. Et parce qu'ils n'étaient pas prêts, c'est pour cette raison qu'ils ont dû peiner pendant 20 ans de plus. Ou plutôt, pendant 40 ans de plus. Pendant 40 ans de plus, ils ont dû peiner en Égypte. Alors qu'ils auraient pu sortir 40 ans plus tôt s'ils avaient seulement été prêts. Dieu était prêt, parce que le temps de la promesse approchait. Dieu a envoyé un ange sur la terre pour préparer les gens, pour accomplir sa parole, car Dieu tient toujours sa parole. Il a dit à Moïse, « J'ai vu les souffrances de mon peuple et j'ai entendu les gémissements et les cris que leur font pousser les oppresseurs. Et je me suis souvenu de ma parole, de ma promesse. » Il s'était passé 400 ans, mais Dieu se souvenait toujours de sa parole. Il s'est passé presque 2000 ans, mais Dieu se souvient toujours de sa parole. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et je crois que le temps de la promesse approche. Remarquez, alors qu'il parlait et qu'il se préparait, qu'il s'était passé 400 ans, Dieu est arrivé à l'heure avec sa parole. Ensuite, nous voyons que, après 40 ans de plus, et je pourrais m'arrêter ici juste pour dire ces mots. Bon, vous pourrez me citer, parce que je sais qu'on enregistre là-bas. Je crois que nous, la venue du Seigneur Jésus aurait dû avoir lieu il y a déjà bien longtemps. Je crois qu'elle aurait dû avoir lieu il y a longtemps. Mais c'est à cause de l'Église qui n'est pas prête à le rencontrer. Maintenant, si vous remarquez, il a dit ce qui arriva au jour de Noé. Au jour de Noé, avant le déluge, c'est comme ça que ce serait. Et Dieu ne voulait pas qu'aucun périsse, mais il voulait que tous arrivent à la repentance. Alors, il a usé de beaucoup de patience. L'étape du déluge aurait dû avoir lieu bien avant. Là-bas, en Égypte, ça aurait dû avoir lieu bien avant. Vous saisissez? La destruction antédiluvienne, là, elle aurait dû avoir lieu bien avant. La destruction par le jugement et la sortie d'Égypte, elle aurait dû avoir lieu bien avant. Il y a eu un délai de 40 ans. Mais Dieu était déterminé. Dieu était déterminé à ce que sa parole ne revienne pas à lui. Il allait tenir sa parole. Il doit tenir sa parole. Il doit le faire pour être Dieu. Même s'il doit faire un changement intégral. Et par sa grâce, il le fera. C'est pour cette raison que je dis, si l'Église ne se prépare pas, il est de votre devoir de vous préparer. L'épouse s'est préparée. Les vêtements sont payés, ils sont prêts, mais vous devez être prêts à porter ces vêtements. L'Église s'est préparée. Maintenant, les frères, écoutez, si l'Église ne se prépare pas, de ses pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Si les gens de la sainteté ne se remettent pas d'aplomb et qu'ils ne reprennent pas le collier, qu'ils ne reviennent pas à l'Évangile, Dieu suscitera, il peut faire rentrer des catholiques, des presbytériens ou tout ce qu'il veut. Il le fera. Il y a quelques semaines, à Lima, dans l'Ohio, beaucoup, certains d'entre vous ici étaient présents là-bas. Des flots de gens parmi les presbytériens, les baptistes, les méthodistes sont venus à l'autel. Ils ont reçu et ont répondu à l'Évangile. Beaucoup mieux que bien souvent les gens de la sainteté le font. Nous, on se contente de se dire qu'on porte son saint nom. Et on ne va pas plus loin que ça. C'est plus que de porter son nom. C'est de vivre pour celui qui est mort pour vous. C'est une vie consacrée à Dieu. Oh, comme nous avons besoin de revenir à la Bible. Il y a quelques soirs, ici, je disais aux luthériens ou à la réunion là-bas, maintenant ils viennent de déclarer, « Donnez-nous encore 5 instituts comme celui-là, de luthériens, alors que 71 d'entre eux ont reçu le Saint-Esprit ce jour-là à l'institut, quand j'y suis allé. » Il disait, « Donnez-nous encore 5 écoles comme celle-là, et si le Seigneur tarde, dans 10 ans, l'Église luthérienne tout entière sera remplie du Saint-Esprit. » Oh là là, certainement, de ces pierres, Dieu peut susciter. Une Église lui sera présentée, sans tache, ni ride, ni aucun défaut. Sa grâce est entièrement suffisante. Il peut faire infiniment au-delà. Comme je le disais ici, il n'y a pas longtemps, les luthériens ont effectivement porté le flambeau qui éclairait le monde. Qu'est-il arrivé? Si vous étiez la lumière du monde, vous les luthériens, à un certain moment, à l'époque de la première réforme, qu'est-il arrivé à votre lumière? Quoi, s'est-elle éteinte? Voici la raison pour laquelle elle s'est éteinte. C'est parce que vous avez abandonné la parole de Dieu. Vous avez cru que le juste devait vivre par la foi, ce qui est tout à fait la vérité. Mais il y a plus que ça, que le juste vivra par la foi. Ensuite, les méthodistes sont arrivés. Vous, les méthodistes, vous avez pris le flambeau de la sanctification et vous avez effectivement porté le flambeau qui a suscité un grand réveil. Tout cela est vrai. Mais qu'est-il arrivé? Qu'est-il arrivé à l'Église méthodiste? C'est que vous avez laissé la lumière s'éteindre. Voilà ce qui est arrivé. Et vous avez prêché la sanctification, la seconde œuvre bien déterminée de la grâce, ce qui est l'absolue vérité selon la Bible. Mais vous en êtes resté là. Ensuite, les pentecôtistes sont arrivés avec la restauration des dons. Et vous avez parlé en langue. Et alors, vous en avez fait une doctrine. Et ensuite, qu'est-il arrivé? Votre lumière s'est éteinte. Qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que vous ne vous en êtes pas tenus à la parole. Nous développons la parole de Dieu et nous devons nous développer à mesure que la parole de Dieu se développe, à mesure que le temps se développe, la science se développe. Et si le monde naturel, l'homme est le même homme qu'il était il y a 6000 ans quand Dieu l'a créé, il a la même capacité intellectuelle, il a la même intelligence, il est exactement le même homme avec les mêmes 5 sens, qu'il était il y a des milliers d'années. Mais regardez les progrès qu'il a fait au cours des 50 dernières années. Regardez ce que ce Fils de Dieu déchu a fait. Il a inventé les automobiles, la radio, les lumières électriques, les bombes atomiques et les avions à réaction. Regardez comme ça s'est fait rapidement. Les pages de la science se tournent rapidement. Mais nous voulons nous arrêter sur un vieux credo d'église et rester là. Alors que Dieu veut que nous développions la parole, nous vivons au dernier jour. Nous vivons au temps où la magnifique Église de Dieu devrait se tenir debout, resplendissante comme le lys de la vallée. Mais nous restons en arrière, là. Eh bien, je fais partie des presbytériens, des méthodistes, des pentecôtistes. Je suis ceci ou cela. Oh, quelle honte! Nous devrions nous développer avec l'Esprit de Dieu coulant à flot, pas juste une petite effusion, pas rien qu'un petit baptême, mais de baptême en baptême. Pas une révélation, le juste vivra par la foi, ou la sanctification, ou les dons de l'Esprit, mais de révélation en révélation, de puissance en puissance, de gloire en gloire. Mais nous devrions être au bout de la route, prêts pour l'enlèvement. Et nous traînons en arrière dans ces vieilleries en disant, « Eh bien, nous retournons toujours en arrière. Avançons !» Les Hébreux disaient, « Bon, écoutez, nous sommes quand même bien nourris, même si nous travaillons dur. Et maintenant que nous avons ce que nous avons les pots d'ail et tout, alors contentons-nous-en. » Mais Moïse avait une révélation. Il avait été dans la présence de Dieu. Il avait quelque chose d'autre. Il est retourné leur montrer que le Dieu même, qui avait existé bien des centaines d'années auparavant, était toujours le même Dieu. Et il a opéré des signes et des prodiges devant eux pour prouver qu'il était toujours le même Dieu. Oh, béni soit son nom! Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Les dispensations changent, les temps changent, les gens changent, mais Dieu demeure. Il doit être le même tout le temps. Sa parole est la vérité éternelle. Il ne peut pas en dévier, ni à droite, ni à gauche. Il doit demeurer le même. Alors nous voyons ce qui se produit. Voilà Moïse qui se présente là avec les signes. J'ai été dans la présence de Dieu. J'ai vu Dieu et Dieu a fait de grandes choses. Il a accompli un acte de guérison divine. Il a accompli un autre acte, un miracle. Et il leur a montré que le Dieu du ciel lui-même lui était apparu. Après des centaines d'années sans aucune action surnaturelle, il leur a montré que Dieu était toujours vivant. Dieu l'avait envoyé. Et il avait dit, « Dis-leur que je suis t'envoyé. » Non pas « j'ai été ou je serai », je suis au temps présent. Il n'est pas « j'ai été ». Comment des gens peuvent-ils prétendre être de Dieu et dire, « Les jours des miracles sont passés, la guérison divine et toutes les bénédictions s'est terminée. » Et quand même dire, « Il est le Dieu vivant et le « je suis ». S'il est « je suis », il est tout aussi réel qu'il l'était au buisson ardent. Ce grand nom-là, quand il est apparu, aucun érudit n'a encore réussi à l'interpréter. J-V-H-U. Personne. Ils disent que c'est Jéhovah, mais ce n'était pas ça. Personne ne peut l'interpréter. Pourquoi? Il est l'Éternel. Amen. Il habite la lumière. Il habite l'éternité. Il habite l'immortalité. L'Éternel, je suis. Alléluia. Ma foi est fondée sur ce rocher solide. Rien ne pourra jamais vous faire de mal une fois que vous êtes ancré là. Les tempêtes auront beau la secouer et s'abattre dessus, mais mon ancre tient à l'intérieur du voile. Une fois qu'un homme ou une femme est ancré et l'a accepté, aucune secousse ne pourra jamais vous en écarter. Tout comme c'était l'heure de leur délivrance et qu'ils ne l'ont pas reconnue. De même, c'est l'heure de la délivrance, la consigne de mise en route pour l'Église. C'est proche. Regardez, mon ami, ils avaient quoi? Premièrement, la parole. Deuxièmement, un prophète. Troisièmement, un ange pour les conduire, pour les guider. Ils étaient tous d'accord entre eux, tous les trois. La parole était d'accord avec le prophète, et le prophète était d'accord avec la parole. L'ange était d'accord avec tous les trois, avec tous. La parole, le prophète, un ange, ils étaient prêts à se mettre en route. Oh, béni soit le nom du Seigneur Dieu. Nous sommes au temps de la fin. La parole, le prophète et l'ange. Tous les trois ensemble, un glorieux témoignage. Dieu a toujours dit que par la bouche de deux ou de trois témoins, toute parole soit établie. Et un vrai prophète sera toujours d'accord avec la parole. Et un ange témoignera toujours de la vérité. Amen. Nous sommes prêts à recevoir la consigne de mise en route. Certainement. Alors, il a fait sortir le peuple. En chemin, ils se sont mis à se révolter contre le prophète et contre l'ange et contre le Dieu et contre la parole. Et ils se sont attirés des ennuis. La Bible dit qu'une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Un mélange de gens de toute espèce sont sortis. Qu'était-ce? Le surnaturel avait été exécuté. Il y avait eu des miracles et des prodiges. Toute personne, tout être humain brûle de voir derrière le rideau. D'où il vient et où il ira un jour. Il brûle de voir derrière le rideau. Mais souvent, quand des actes surnaturels ont été accomplis, alors il y a un mélange de gens de toute espèce qui vont suivre. C'est ce qui s'est passé au jour de Luther. Quand le mélange, c'est depuis cette époque-là que Dieu essaye de les faire sortir. Et au jour de Luther, le juste vivra par la foi. Ils l'ont testé, ils l'ont éprouvé, et ils ont vu que c'était bien vrai. Un mélange de gens de toute espèce ont suivi. Et dès le départ de Luther, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont organisé l'Église et ont formé un grand système ecclésiastique. Et à ce moment-là, l'Église a été remise au rancard. John Wesley est arrivé, un des vaillants combattants du Moyen Âge. Il s'est présenté là et il a défié l'Église anglicane. Il a défié l'Église catholique. Il a défié le monde en disant « Le Dieu Saint dit que les gens doivent mener une vie sanctifiée. » Et il s'est tenu à sa promesse, à la promesse de Dieu. Et il a produit un miracle. Qu'est-ce qui s'est passé? Le mélange de gens de toute espèce a pris le départ avec lui. Et quand Wesley est reparti, alors le mélange de gens de toute espèce s'est introduit. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Cela a corrompu l'Église, si bien que beaucoup d'entre elles n'acceptent même plus de mettre des cantiques sur le sang dans leurs livres de cantiques, certainement. Eh bien, après, les pentecôtistes sont arrivés, et les pentecôtistes se sont mis à découvrir les dons. Dès qu'ils ont eu accès aux dons, tout de suite, le plus petit don de tout l'ensemble est le parler en langue. C'est le dernier et le moindre. Dieu a commencé par les choses d'amateurs et n'ont même pas réussi à garder cela. Regardez bien, le premier de tous les dons, c'est la sagesse. Le deuxième, c'est la connaissance. Et si vous n'avez pas de sagesse, comment allez-vous savoir quoi faire de la connaissance? Recherchez les choses les meilleures d'abord, la sagesse. Et si vous n'avez pas la sagesse, qu'est-ce que vous pouvez faire de la connaissance, ou du parler en langue, ou de ces autres choses? Il faut la sagesse. Il faut la sagesse de Dieu. Salomon a dit, appelez-la votre mère. C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Les pentecôtistes ont reçu le parler en langue, et ils en ont fait une dénomination. Et ils se sont mis à dire, ce qu'il faut, c'est ceci. C'est bien ce qu'ils ont fait. Et un mélange de gens de toute espèce les ont suivis. Et aujourd'hui, qu'est-il arrivé aux pentecôtistes? Ils sont divisés en deux groupes. L'un d'eux est froid, formaliste, raide et guindé au possible. Et l'autre recherche toutes sortes d'ismes. L'huile et le sang qui leur coulent des mains et tout le reste, d'un bout à l'autre du pays. Ils appellent ça des preuves qu'on a le Saint-Esprit. Et des grenouilles, des lézards et tout, qui sautent des gens. Et ensuite, ils les mettent dans le formol et tout. Tout le monde sait qu'un démon n'a pas de corps physique. Et si le sang de Jésus-Christ avait coulé sur un homme, ce serait un corps physique. Alors Christ serait déjà là. Et dans ce cas-là, c'est faux. La Bible dit que quand Jésus viendra, tout genou fléchira et toute langue confessera. Il serait, sa venue sera comme la lumière qui part de l'Orient et qui se montre jusqu'en Occident. Ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Tout genou fléchira et toute langue confessera. Nous savons que c'est vrai. Alors, quand nous voyons ces choses-là se produire, quand nous voyons ces choses-là arriver, alors nous savons qu'un mélange de gens de toute espèce sont montés avec le peuple. Au bout d'un certain temps, un groupe a pris une position extrémiste d'un côté, l'autre a pris une position extrémiste de l'autre côté. Et voilà votre mélange de gens de toute espèce. Voilà encore la réaction que vous avez. Voilà où vous en arrivez. Et à ce moment-là, ils sont arrivés au point de Kadès-Barnéa. Et quand ils sont arrivés à Kadès-Barnéa, là, c'était le tribunal où les épreuves devaient se régler. Oh, si seulement vous pouviez comprendre ça, petite église. Maintenant, c'est ici que nous voulons serrer, là, pendant un petit instant. Maintenant, écoutez attentivement. Kadès-Barnéa, c'était l'heure du test. Et chaque enfant qui vient à Dieu doit être testé. Il n'y a aucune exception du tout. Dieu teste et éprouve chaque enfant qui vient à lui. Pas vrai? La Bible le dit. Et alors, nous remarquons là quand ces épreuves se présentent et ces tests. L'heure du test vient pour les nations. Bon, je dis ceci, je ne suis pas politicien. Dieu dirige sa nation à lui. Il ne dirige pas les nations qu'il y a ici. C'est le diable qui dirige celle-là. Chacune d'elles, c'est ce que la Bible dit à leur sujet. Le diable dirige toutes les nations. Remarquez, quand vient l'heure du test pour les nations? Quand l'heure du test est venue pour Israël, elle a échoué. Et à ce moment-là, Dieu l'a remise entre les mains de Babylone. Comme nation, elle a échoué. Et quand l'heure du test est venue pour Rome, elle a échoué. Quand l'heure du test est venue pour la Grèce, elle a échoué. Quand l'heure du test est venue pour la France, elle a échoué. Quand l'heure du test est venue pour la Russie, elle a échoué. Écoutez, et je dis ceci avec le cœur respectueux devant Dieu. L'heure du test est venue pour l'Amérique et elle a échoué. L'évangile a été prêché de l'est à l'ouest, du nord au sud. Ils ont exploré tous les petits secteurs, tous les coins et les recoins. Il y a eu de grandes réunions de réveil, celles de Billy Graham, de Jack Schuller, d'Oral Roberts. Et ils ont, oh, il y en a eu des centaines qui ont exploré tous les coins et les recoins. Le diable a lancé la télévision là-bas. Et alors Dieu s'est arrangé pour avoir des hommes à la télévision. Tous les ivrognes qui sont dans les bars ou n'importe où n'auront aucune excuse. Oui, monsieur, l'heure du test est venue. Qu'est-ce que je vous ai dit du haut de cette chair? L'an dernier, l'Amérique a commis son erreur fatale. J'ai dit « erreur fatale ». Assurément. Et regardez ce qu'elle fait maintenant. Vous le voyez en observant les affaires gouvernementales. Ils cherchent à aller là-bas, s'allier avec les Arabes. Ne le savez-vous pas? La parole de Dieu dit « quiconque maudira Israël sera maudit ». Certainement, je suis du côté d'Israël. Prenez notre territoire, ils le prendront, certainement. C'est mal ce qu'ils font. Bien sûr que c'est mal. Frères, regardez toutes les nations qui se sont retournées contre les Juifs. Elles se sont écroulées. Regardez l'Allemagne. Quand elle s'est retournée contre les Juifs et qu'on brûlait leurs corps dans des fours crématoires. Et regardez où elle en est aujourd'hui. Regardez l'Italie qui s'est retournée contre les Juifs quand Mussolini les a expulsés de l'Italie. Regardez-la aujourd'hui. Si nous ne les approvisionnions pas, ils mourraient de faim. Et voici que l'Évangile est venu et il a lancé un appel de miséricorde dans toutes les nations pendant des années et nous l'avons rejeté. Et maintenant à l'œuvre, il y a le diable qui siège. Il dresse le cœur des hommes politiques contre Israël. Ils sont en train de s'allier avec les Arabes là-bas. Frères, autant dire que nous sommes fichus. C'est vrai, nous allons nous écrouler, c'est sûr et certain. J'aime ma nation, je l'aime, ce qu'elle représente. Mes frères, j'aime mon Seigneur par-dessus tout. Et j'aimerais voir ma nation tomber à genoux. Mais j'ai bien peur que nous ne le ferons jamais. Nous sommes au temps de la fin. Qu'est-ce qui s'est passé? Un mélange de gens de toute espèce sont entrés. Observez nos églises. Alors qu'il y a quelques années, on avait des églises de la sainteté à l'ancienne mode. On tenait ferme pour Dieu et pour la droiture. Les femmes s'habillaient et se comportaient comme des dames. Les hommes s'habillaient et se comportaient comme des hommes. Les gens allaient à l'église le dimanche matin. On faisait des réunions de prière qui duraient toute la nuit. On faisait des réunions à l'ancienne mode. On avait un vrai réveil. Dieu bénissait. Il exterminait tous les ennemis devant eux. Ils continuaient leur voyage. Mais quand le lingot d'Achan est entré dans le camp, il ne restait plus que la destruction. Nous sommes en mort, Dieu en route, Dieu tient sa parole. L'heure du test est venue, l'heure du test est venue pour l'église luthérienne, l'heure du test est venue pour l'église méthodiste, l'heure du test est venue pour l'église pentecôtiste. Elle vient pour chaque église, elle vient pour chaque personne, l'heure du test. Il n'y a qu'un moyen pour vous de savoir que vous êtes dans le vrai. Tenez-vous-en au plan éternel de Dieu. Tenez-vous-en à la parole. Ce que Dieu dit, dites, c'est juste. N'acceptez rien de moins, ni rien de plus. Pourquoi nous faudrait-il accepter des substituts à ceci, cela et autre chose, alors que la parole de Dieu est remplie de promesses? Oui, monsieur, nous n'avons pas besoin d'accepter aucun substitut. La vérité, c'est ceci. Dieu tient sa parole, peu importe combien elle peut sembler déraisonnable. Dieu tient sa parole quand même. Certainement qu'il l'a fait. Qu'est-ce que votre grand-père aurait dit si votre arrière-grand-père lui avait annoncé qu'il viendrait un temps où les voitures circuleraient sans chevaux dans les rues? Il se serait peut-être moqué de lui, mais elles sont là, c'est vrai. Et que dire de ces autres choses qui allaient se produire à la suite de toutes ces glorieuses prophéties qui ont été faites? Mais nous en sommes là. Et un jour, Jésus viendra, cette glorieuse majesté du Fils de Dieu. Il l'a promis. Il a promis qu'il allait juger le péché. Frères, ou bien vous accepterez le sacrifice que Dieu a pourvu pour le péché, ou bien vous en supporterez seul le jugement, nation, église ou individu. L'heure du test. Regardez bien, ils ont envoyé quelqu'un. Ils en ont envoyé 12 pour voir ce qu'ils en diraient. 10 d'entre eux sont revenus en disant, « Oh, nous ne pouvons pas y arriver, c'est impossible. Nous ne pouvons vraiment pas y arriver. » Mais ces braves Caleb et Josué, ils sont montés sur une souche. Ils ont dit, « Nous pouvons y arriver. Nous sommes capables d'y arriver. » Pourquoi ? Tout dépend de ce que vous regardez. Si vous regardez l'apparence extérieure, est-ce que ça semble être comme ceci ? Est-ce que ça semble ? Ne regardez pas à ce que ces gens-là disent ou ce qui est dit n'importe où ailleurs. Si c'est contraire à la parole de Dieu, tenez-vous-en à la parole. Dieu leur avait promis ce pays-là. C'est là-dessus que Caleb et les autres fondaient leurs espérances. Lisez le livre de Deutéronome. Voyez comment Moïse les a repris. Il a dit, « J'ai fait ceci et j'ai fait cela. » Et Dieu a fait ceci et il a dit ceci. Mais vous n'en avez pas voulu. Dieu s'en tient à sa promesse. Oh, parfois ça semble difficile. Maintenant, je veux que vous écoutiez ceci. C'est difficile, c'est un combat. Au loin, là-bas en Égypte, Dieu a dit, « Je vous ai donné ce pays et tout ce qu'il contient. » Or, il n'a pas simplement dit, « Je vais vous prendre, vous emmener là-bas et vous y installer. » Ils ont dû combattre pour chaque pouce de terrain qu'ils ont obtenu. Dieu, quand il a donné son ordre à Josué là-bas, il a dit, « Prends courage, ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. » L'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Peu importe ce que c'est, combien c'est difficile, combien grand est l'obstacle, ça n'a pas d'importance. Même si c'est dans la vallée de l'ombre de la mort, l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Oh, Josué pouvait vraiment convoquer tout Israël et leur dire, « Tenez-vous ici et voyez la gloire de l'Éternel. » Dieu se tient à sa parole. Dieu a fait la promesse. Dieu avait dit à Josué, « Tout lieu où vous poserez la plante de vos pieds est à vous. Je vous le donnerai. » Amen. Si c'est pour le salut, si c'est pour la guérison divine, si c'est pour plus de bénédictions, si c'est pour quoi que ce soit que Dieu a promis, laissez vos empreintes. Amen. Tout lieu où vous poserez la plante de vos pieds, je vous l'ai donné. Il vous appartient. Dieu l'a promis. Dieu tient sa parole. La parole de Dieu est éternellement vraie. Je la crois. Vous la croyez. Frères, il est temps pour nous de laisser des empreintes. Nous ne pouvons pas rester ici, toujours dans le même camp. Le feu continue à avancer. Avançons de gloire en gloire, d'expérience biblique en expérience biblique. Développons-nous et ouvrons nos cœurs. Levons les mains vers Dieu. Gardez toujours votre bon sens. Restez dans la Bible. N'en sortez pas. Restez là. Suivez. Nous avons le prophète de Dieu. Nous avons la parole de Dieu et nous avons l'ange de Dieu. Il conduit cette église exactement comme il la conduisait à cette époque-là. C'est tout à fait exact. La parole de Dieu est devant nous. Le prophète de Dieu, c'est le Saint-Esprit. L'ange de Dieu conduit l'église. Nous avançons dans la colonne de feu, dans la gloire de Dieu, assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes maintenant fils et filles de Dieu. Et la glorieuse révélation de la parole, le Saint-Esprit qui l'a fait pénétrer dans les cœurs et qui produit des térébintes du salut, une vie droite, l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la bienveillance, la patience, assurément. Ça ne se produira pas seulement à un Branham tabernacle ou à un autre tabernacle. Ça se produira chez des individus. Si tout le Branham tabernacle s'assemble dans un même accord, tout l'ensemble avancera, formant un seul grand bloc qui agit pour Dieu. Mais s'il n'y a qu'une personne dans ce Branham tabernacle qui avance comme ça, Dieu avancera avec celle-là. Et il n'y a qu'une façon d'y arriver, c'est de s'aligner derrière cela, de continuer notre marche. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu tient sa parole. Eh bien, ces hommes-là, ils disaient, « Nous ne pouvons pas faire ça. Nous ne pouvons pas faire des réunions de réveil là-bas. Tout est contre nous. » Oh là là, les Amoréens sont là, et les Héthiens, et tout. Ils sont tous entourés de murs. Et nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. Mais ce brave Josué, il avait peut-être 40 ans. Il se frappait la poitrine. Et Caleb qui disait, Caleb était là, qui disait, Caleb disait, « Savez-vous quoi? Nous sommes plus que capables d'y arriver. » Oh frère, un petit juif au nez crochu qui était là, a sauté en l'air en disant, « Nous sommes plus que capables. » Non seulement nous sommes capables, mais nous sommes plus que capables. Pourquoi? Dieu l'a dit. Ça règle la question. Frère, nous pouvons avoir la guérison, nous pouvons avoir les miracles, nous pouvons avoir un réveil, nous pouvons avoir les bénédictions. Pourquoi? Dieu l'a dit. Nous pouvons avoir une véritable Pentecôte, nous pouvons avoir un vrai réveil. Dieu l'a dit. Dieu tient sa promesse. Comme Dieu tient sa promesse quant à ses bénédictions, Dieu tient aussi sa promesse quant à son jugement. Nous devons recevoir le jugement ou la bénédiction. Nous devons avancer ou reculer. Nous devons aller avec lui ou aller seul. Personne ne peut y aller avec cela. Tenez-vous à sa parole. Je pense à un très bon ami à moi qui est dans la gloire aujourd'hui. Oh, un brave frère béni, un homme saint rempli du Saint-Esprit, du nom de Paul Rader. Une fois là-bas sur la côte ouest, juste avant sa mort, vous connaissez son témoignage. C'est son cantique qu'il a écrit, « Crois seulement », qui a été mon appel à monter en chair. Je me demande si Paul, dans la gloire, peut entendre ce vieux cantique être chanté par les milliers et les milliers et dans les différentes langues. Comment aurait-il pu se douter que ce pauvre jeune homme, assis devant lui là-bas, avec des vieilles godasses aux pieds et même pas de cravate, les cheveux qui avaient besoin d'une coupe, que Dieu me permettrait de porter ce cantique tout autour du monde. Dieu tient sa parole. Moi, l'Éternel, je l'ai planté. Je l'arroserai jour et nuit, il a dit, de peur qu'on ne l'arrache de ma main. On peut avoir l'impression qu'elle est en train de couler, mais elle ne coulera jamais. Oh, la petite barque cette nuit-là, alors que tout espoir s'était envolé, elle était ballottée. Il semblait que la dernière heure avait sonné. Mais tout à coup, quelqu'un est arrivé, en marchant sur les eaux avec le plus grand calme. Il est toujours là, il n'est jamais en retard. Si la barque avait reçu un coup de plus, elle aurait coulé. Mais il est toujours là, certainement. Ce jour-là, là-bas à Babylone, quand les enfants hébreux ont été emmenés dans la fournaise ardente, on aurait dit que c'était vraiment la fin. Mais quand ils ont mis le pied dedans, quelqu'un qui était semblable au Fils de Dieu était là avec eux. Il est toujours là, il n'est jamais en retard, il tient sa parole. Je serai avec vous. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, a dit David. Il est toujours là, il tient sa promesse, il est fidèle éternellement. Il ne peut pas faillir, sa parole ne faillira jamais. Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Paul disait qu'une fois, il se débattait. Il était quelque part dans les îles et il avait de la fièvre. Il était à presque 100 milles d'un médecin. Dans les marais, dans le marais, il a eu la fièvre Blackwater, ce qui entraîne une mort soudaine. Il s'est mis à faire noir. Il a dit à sa fidèle petite épouse, il a dit, « Tiens-toi ici à mes côtés, ma chérie, et prie. » Il commence à faire tellement noir dans la chambre. Mais il a dit, « Je mets ma foi en Dieu. Peu m'importe ce qui peut arriver, je crois Dieu. Je m'en tiendrai strictement à ça. » Il a dit, « Reste ici et prie, ma chérie. » Et elle a prié. Et il faisait plus noir. Il a dit, « Chérie, il fait plus noir dans la chambre. Mais oh, je me sens en paix. » Et au bout d'un moment, il faisait tellement noir qu'il est parti. Il a eu un rêve, il pensait qu'il rêvait. Il était de retour dans l'Oregon, d'où il venait, et il coupait des arbres. Et le patron a dit, « Paul, va sur le haut de la montagne là-bas, me couper un arbre de tant de pouces de diamètre et de tant de pieds de longueur, et apporte-le-moi. » Il a dit, « D'accord, patron, je vais y aller. » Il est monté là-haut, et il a abattu son petit arbre, et il a planté sa hache dedans. Il s'est penché pour l'empoigner et il n'arrivait tout simplement pas à le soulever. Il a dit, « J'ai perdu ma force. Je ne peux plus continuer du tout. J'ai perdu ma force. » Voyons, il a dit, « Me voilà, moi qui suis un grand gaillard. Je pèse plus de 200 livres. J'ai un dos bien musclé. Voyons, il a dit, « Avant, je n'avais qu'à me serrer les genoux, empoigner un rondin de presque n'importe quelle grosseur et je pouvais le soulever pour qu'il mette les chaînes dessous. » Il a dit, « Et ici, ça, je... une petite branche, pas plus grosse que ça, et je n'ai pas réussi à la soulever. » Il a dit, « Je me suis démené, et j'ai essayé, jusqu'à ce que je n'ai plus de force du tout. » Oh, il a dit, « Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire ?» Il a dit, « Je me suis assis, adossé à un arbre. » Il a dit, « Oh, je suis si triste. Mon patron veut ce petit arbre là-bas. Et je ne suis même pas assez homme pour le lui apporter. » Oh, ce que notre patron veut. Il veut une église sans tache, sans rides. Il veut un groupe de gens lavés par le sang. Il veut un peuple qui a la foi, qui se tiendra à sa parole et qui dira, « Ça, c'est la vérité éternelle de Dieu. Elle est pour moi et je la crois. » Et il a dit, pendant qu'il était assis là, il était adossé à un arbre et il pleurait. Et il a dit qu'il a entendu son patron qui parlait, qui disait, « Paul ?» Il a dit, « Oui, patron, me voici. Mais j'ai perdu toute ma force. Je ne peux vraiment plus aller plus loin. » J'ai essayé de le faire, j'ai essayé de t'obéir et de faire ce que tu m'as dit de faire. Mais je n'arrive tout simplement pas à soulever cette chose-là du sol. Il a dit, je me suis démené, j'ai essayé, j'ai tout fait. Et je me demande si ce n'est pas là l'attitude de bien des prédicateurs sincères aujourd'hui qui ont désiré ardemment voir une église bâtie, sans tache ni ride, voir les promesses de Dieu manifestées. Nous nous sommes démenés, nous avons essayé, nous avons crié, nous avons pleuré. Nous nous sommes enroués à force de prêcher, et la tête sur l'oreiller, nous avons pleuré. Oh Dieu, comment se fait-il que juste au moment où on se remet d'aplomb, le diable arrive, et il casse tout, il démolit tout, il renverse tout ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on voit ces gens qu'on aime tant, qui sont dispersés et qui partent de tous côtés comme ça? Ensuite, il a dit, quand il a entendu sa voix, celle de son patron, il s'est dit, « C'est bizarre ça, je n'ai jamais entendu ma voix parler, mon patron me parler si gentiment. » Et il a dit, « Quand je me suis retourné, c'était mon vrai patron, c'était mon maître, mon sauveur. » Il a dit, « Paul, tu es en train de te crever, ça ne t'avancera à rien. » Il a dit, « Paul, tu ne vois pas ce petit cours d'eau qui coule là-bas ? » Il a dit, « Oui, tu n'as qu'à le basculer là-dedans. Monte dessus et chevauche-le jusqu'au camp. Ça descend jusqu'au camp. » Il a dit, « Je me suis levé d'un bond. J'ai roulé le rondin jusque dans l'eau et j'ai enfourché le rondin. J'ai descendu le rapide en criant à tue-tête, en criant, « Je chevauche dessus, je chevauche dessus, je chevauche dessus. » Et quand il est revenu à lui, il était en plein milieu de la pièce et sa femme criait à tue-tête. Il était au milieu de la pièce. Il disait, « Je chevauche dessus, je chevauche dessus, je chevauche dessus. » Et frères, sœurs, je sais que les épreuves sont dures. Je prends de l'âge et j'ai prêché. J'ai fait tout ce que j'ai pu. J'en suis arrivé au point où je vois que je ne peux rien faire de plus. J'ai tout simplement déposé tout cela dans les mains du Seigneur Jésus. Et je chevauche la promesse de Dieu. Moi, l'Éternel, je l'ai plantée, je l'arrose jour et nuit, de peur qu'on ne l'arrache de ma main. L'Église de Dieu demeurera pour toujours. La parole de Dieu sera carrément vraie, et pour toujours. Que des royaumes naissent, que des bombes atomiques tombent, que l'Amérique rétrograde, quoi qu'il arrive, ceci est quand même sa parole. Il la tient. Et je la chevauche. Je la crois de tout mon cœur. Prions. Cher Jésus, ô quel chevauché, voguant sur les ondes de la joie, suivant le courant de l'Alléluia, ô chevauchant simplement, tu as promis, toutes tes promesses sont vraies. Et nous savons qu'elles rendent, chacune d'elles, témoignage qu'elles sont vraies. Et tout au long des âges, nous avons vu cette vieille Bible bénie s'ouvrir à nous. Et maintenant, la grande heure approche, l'heure de minuit. Seigneur, de grands ministres de l'Évangile, remplis de sainteté, ont parcouru le pays, à prêcher, à pleurer, à boire de l'eau plate, persécutés, chassés à droite et à gauche, expulsés des villes, emprisonnés, on s'est moqué d'eux, on les a méprisés, on les a ridiculisés, affamés. Mais l'Église a continué à avancer, car ta parole a dit, « Sur ce rocher, je bâtirai mon Église, et les ports du séjour des morts ne prévaudront jamais contre elle. » Et nous chevauchons aujourd'hui le rocher, la vérité révélée éternelle de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ. C'est sur ce rocher solide que l'Église se tient aujourd'hui. Les athées, les communistes, les éléments de cette terre se sont élevés, ils ont frappé, ils ont tempêté, mais elle est bâtie sur ce rocher solide. Le diable a fait entrer des critiqueurs. On se moque d'elle, on la persécute, on la traite de tous les noms imaginables. Et on nous a molestés, nous avons été testés, éprouvés, et, oh, tout le reste. Mais, oh Dieu, comme Josué et Caleb d'autrefois, nous continuons à dire que nous nous tenons éternellement à la parole de Dieu. Il tient sa promesse, il a dit qu'il le ferait, et nous le croyons. Et que chaque individu qui se trouve ici ce matin voit clairement maintenant ce que cela veut dire. Que maintenant, nous chevauchons ceci. Un jour, nous arriverons au camp, là où les saints sont campés sur la surface de la terre. Dieu et ses enfants se réjouiront pour toujours. Accorde le Seigneur. Et pendant que nous avons la tête inclinée, les yeux fermés, dans ce tabernacle ce matin, je me demande si, au nom de Christ, si quelqu'un aurait le courage de dire, « Frère Branham, aujourd'hui, à l'instant même, dans cette église, je lève maintenant les mains vers Christ pour dire, à partir d'aujourd'hui, je chevaucherai ta parole, Seigneur. Je me tiendrai à cela. J'accepterai Christ comme mon sauveur. Je n'essaierai jamais de faire des choses pour chercher à mériter mon salut. Je croirai simplement au Seigneur Jésus et je l'accepterai. Et je le laisserai placer dans mon cœur ce profond amour divin et la paix qui surpasse toute intelligence. Je m'attendrai au Saint-Esprit pour que lui me donne. À un moment donné, je me suis élevé et j'ai cru que je pouvais y arriver tout seul. Mais je me suis rendu compte que je ne pouvais pas. C'est sûr, vous ne le pourrez jamais. Mais si vous restez seulement là assez longtemps pour que lui le fasse, alors ça ne bougera pas, alors ce sera ancré. Mais si c'est vous qui essayez de le faire, vous allez échouer et vous échouerez. C'est immanquable. Voilà la raison pour laquelle vous avez vos hauts et vos bas, et que vous êtes en dedans et en dehors. Et toutes ces choses que vous faites, c'est parce que c'est vous qui essayez de le faire. Vous dites, « Oh, je crois que ça va bien pour moi maintenant. » Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Non, c'est le Saint-Esprit qui entre. C'est lui qui s'installe. Il enlève toutes les vieilles racines d'amertume, la vieille colère, le tempérament colérique, la jalousie, l'amour du monde et tout. Il enlève tout ça de vous. Et alors, vous êtes une nouvelle créature. Voulez-vous lever la main pour dire, « Oh Christ, fais de moi ce genre de chrétien-là ce matin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, madame. Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse, sœur. Fais de moi ce genre de chrétien-là ce matin. Je veux être comme Jésus. Je veux que toutes les racines d'amertume soient ôtées de mon cœur. » Bon nombre d'entre vous ont levé la main là. Maintenant, à l'endroit où vous êtes, si vous êtes prêt de tout votre cœur, maintenant, pas seulement à imaginer, mais à croire que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est là, tout à côté de vous, et qu'il ôtera de vous cette vieille amertume. Ce qui fera de vous ce que vous désirez tant être, il le fera à l'endroit même où vous, il pratiquera cette opération dans votre hôpital à vous, si vous voulez seulement le laisser faire. Continuez simplement à prier. « Seigneur, souviens-toi, mon enfant, il s'agit de ton âme. Il se pourrait que vous ne vous trouviez pas à une autre réunion, plus jamais. Il se pourrait que ce soit la dernière. Laissez Dieu le faire tout de suite. Vous dites, « Frère Branham, est-ce que je devrais venir à l'hôtel ?» Si vous voulez venir, bien sûr. Si vous ne voulez pas venir, restez à l'endroit où vous êtes. Croyez-le, c'est tout. Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne viendra jamais en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est ça. Si vous aimeriez venir à l'autel pour prier, il est ouvert à tous. Si vous voulez rester à votre place pour prier, c'est votre âme à vous. C'est votre affaire à vous. Le temps est proche, frère. L'église est presque complète. Le vieux ruisseau est boué. Nous avons pêché à la Seine et nous avons pêché et nous avons mis nos vieux plombs à l'eau, si bien que c'est tout boueux maintenant. Il y a trop de cochons dans la mare bourbeuse. Elle est boueuse. Et moi, comme prédicateur, mon sentiment, c'est que si Dieu va le faire, il faudra vraiment que ce soit Dieu qui le fasse. Moi, je ne peux pas. Donc, c'est votre décision. Voilà la parole, voilà la vérité. Vous la voyez s'ouvrir ici même devant vous. La fin est proche. Jésus pourrait venir d'un moment à l'autre. Il se pourrait qu'il n'y ait même plus d'États-Unis avant le coucher du soleil ce soir. Il pourrait larguer 5000 bombes atomiques d'un seul coup. D'ici une heure, il ne resterait même plus un seul être vivant sur la terre. Si vous voulez, c'est votre décision maintenant. Pensez-y maintenant, pendant que nous prions. Cher Père Céleste, en concluant cette parole, alors que je referme les pages, le message est maintenant scellé. La venue du Seigneur approche. Plusieurs personnes dans ce bâtiment ce matin ont levé la main pour dire « Je veux devenir un chrétien. Je veux être un vrai, vrai serviteur de Dieu né de nouveau. » Seigneur, il y a peut-être bien des années que tu parles à leur cœur. Tu le leur as dit. Ta grâce est encore là pour les toucher. Leur cas n'est pas encore complètement désespéré. Certains sont déjà arrivés au point où ils n'en ont plus aucun désir. Il y a un an, ils levaient la main, ils disaient, « Eh bien, j'aimerais être un chrétien. » Maintenant, ils se sont trop éloignés. Maintenant, ils ne ressentent plus ce désir. C'est presque terminé. Et on dirait que c'est la tendance générale partout dans le pays à entendre ce qu'en disent les grands évangélistes qui ont parcouru les nations. Ils ont sondé le terrain. Ils ont tout fait. Ils ont organisé des groupes. Ils sont allés dans les foyers des gens qui avaient levé la main, qui voulaient essayer. Alors que des milliers et des milliers prenaient le départ, deux ou trois tenaient bon. Eh bien, c'est terminé, Seigneur. C'est terminé, ô Dieu. Nous sommes fichus. Ô Père, je sais que tu as dit que tous ceux qui viendraient à Christ, tu les garderais. Et je le crois de tout mon cœur. Et je le crois, Seigneur, que tu garderas ceux dont le cœur et l'esprit s'appuient sur toi. Et je te remercie, Seigneur, pour l'Église et pour les saints du Dieu vivant qui sont dans cette Église, ce glorieux corps spirituel. Mais, ô Dieu, combien mon cœur frémit pour ceux qui sont à l'extérieur de cela, en sachant qu'ils voient l'écriture sur la muraille, qu'ils voient les grands événements qui se produisent, les poteaux indicateurs. Et l'Amérique, malgré tout ça, est remplie d'histoires sales, et d'émissions de télévision et de radio non censurées, et de magazines d'histoires sentimentales, et de moqueurs, et de railleurs, et de divertissements à grande envergure, et d'évangélisation à la Hollywood. Oh Dieu, c'est minuit qui est en train de sonner, c'est vrai. Elle est prête à partir. Et qu'est-ce que je peux faire, Seigneur? Je me suis tracassé, j'ai pleuré, j'ai supplié. C'est vraiment à toi d'agir, Seigneur. C'est tout ce que je peux faire. Je l'ai prêché. Je vais simplement me tenir à la parole, Seigneur. J'essaie de chevaucher jusqu'au camp maintenant. Il n'y aura plus beaucoup de temps. Pour ces gens qui ont le cœur sincère aujourd'hui, oh Dieu, fais quelque chose pour eux à l'instant même. Qu'ils deviennent tes enfants à partir d'aujourd'hui. Guéris les malades qui sont au milieu de nous, Seigneur. Redonne-leur la santé. Ramène les rétrogrades qui sont froids, Seigneur. Fais-leur savoir qu'ils jouent sur un terrain tellement dangereux. Bientôt, ils ne seront plus là. Ce sera trop tard alors. Que ton esprit agisse puissamment sur nous maintenant. Accorde-le. Au nom de Christ. Amen. Aux jeunes, je dirais ceci. Si je pouvais, ce matin, après un anniversaire hier, 48 ans dans cette vie, j'en ai consacré 20 et quelques, environ 24 ans au Seigneur Jésus. J'étais un jeune homme d'environ 23 ans quand j'ai commencé à prêcher l'Évangile. Le seul regret que j'ai, si j'en ai, le seul regret, si je pouvais appuyer sur un bouton ce matin et retourner à cet âge formidable d'environ 16 ou 17 ans, je ne voudrais le faire que pour une seule chose, c'est pour servir Christ. Voilà ce que ça représente, uniquement pour servir Christ. Dieu, qui connaît mon cœur, sait que c'est la vérité, uniquement pour servir Christ. Je n'ai jamais vu quoi que ce soit ou pensé à quoi que ce soit qui soit comparable à cette encre bénie. Christ dans mon cœur, je ne connais rien d'autre. J'ai parcouru les mers, j'ai volé dans les airs, j'ai vu tous les sites remarquables du monde, j'ai vu les sept mystères du monde, ou plutôt, j'ai vu les sept merveilles du monde. J'ai vu presque tous les flancs de montagnes du monde. Je suis un chasseur, j'ai chassé dans toutes sortes de nations, j'ai tout fait, j'ai pêché, j'ai monté des chevaux, j'ai travaillé dans un ranch, j'ai fait tout ce qui pouvait se faire à ma connaissance. Et je dirais ceci, que tout cela réuni n'équivaut pas à la grosseur d'un poids de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que je pourrais faire? Oh oui, c'est bien comme les gamins ici. J'ai eu mes petites amies, et je me suis arrangé les cheveux bien lissés, et j'abaissais le pare-brise de ma voiture, et je sortais avec ma petite amie. Je me disais, mais ça ne satisfaisait vraiment pas. Il y a quelque chose qui vous manque tout le temps. Je voyais une jeune fille avec de beaux yeux bruns, et ça, vous savez comment vous vous sentez, vous les jeunes. Je pensais que c'était vraiment ça qu'il me fallait. Si seulement je pouvais sortir avec cette jeune fille, vraiment, ça me débarrasserait vraiment de toutes mes inquiétudes. Là, ce serait vraiment réglé. Je sortais avec elle, et au bout de 15 minutes avec elle, je cherchais quelqu'un d'autre. Ça ne satisfait vraiment pas. Oh, il n'y a rien. Mais cette heure bénie, béni soit son nom, dans une espèce de vieux hangar à charbon, derrière le bâtiment, à genoux sur un vieux sac de toile, dans une allée. Là, je me suis agenouillé sur le sol mouillé et j'ai dit, « Seigneur Jésus, peux-tu faire quelque chose pour moi ?» C'est alors qu'une paix qui surpasse toute intelligence, il y a 24 ans de ça, s'est ancrée ici dans mon cœur. Et ça vaut tout ce que le monde entier peut contenir. Je n'ai jamais rien vu qui soit comparable. Dans mes épreuves et mes labeurs, suffisante est sa grâce. Je peux toujours compter sur sa faveur à chaque heure qui passe. Je lui ai fait confiance à l'heure de la maladie et des accidents. Je lui ai fait confiance quand les avions tournoyaient dans l'orage et qu'on ne savait plus quoi faire. Je disais, « Seigneur Jésus, tu n'as plus besoin de moi ? Si ce n'est pas ça, redresse cet avion. » Et je le voyais reprendre tout doucement le droit chemin. Je me suis trouvé dans des cliniques où les meilleurs médecins du pays ils m'examinaient et disaient, « Il ne lui reste plus que quelques minutes à vivre, il s'en va. » Et alors qu'on me fournissait les meilleurs médecins qui se pouvaient trouver, je disais, « Seigneur Jésus, tu n'as plus besoin de moi ?» Et tout à coup, je revenais à moi et j'étais rétabli, certainement. Oh, grâce infinie de notre Dieu, combien je souhaiterais avoir les langues qui pourraient expliquer ce que c'est. C'est trop glorieux pour la pensée humaine. Croyez-moi, n'acceptez aucun substitut, mon ami. N'acceptez aucun substitut. Ne vous contentez pas de dire, eh bien, bon, je fais ceci, je vais vous dire, je suis quand même une assez bonne personne. Ne vous reposez pas là-dessus. Ne faites pas ça. Restez là jusqu'à ce que quelque chose vous touche et enlève tout le péché et dépose un baiser là qui brûlera en vous. Et quand les épreuves arrivent, vous n'avez pas à vous demander si je vais faire cela. Il y a quelque chose là qui tient bon. Comme je suis un homme d'âge mûr maintenant, je dois m'arrêter là-dessus, y réfléchir. Qu'un de ces jours, je devrais partir. Si Jésus tarde, je devrais partir. Je ne sais pas comment ça se passera quand j'arriverai au bout du chemin. Je ne sais pas. Je ne me confie pas dans le fait que j'ai prêché. Non, monsieur. Non, je ne me confie pas dans les choses que j'ai faites. Oh Dieu, non. Oh, loin de moi cette idée. J'ai fait des choses depuis que je suis prédicateur. J'ai négligé et j'ai fait ceci et cela. Je ne veux pas me confier en quoi que ce soit de tout cela. Non, monsieur. Je ne veux pas dire, Seigneur, j'ai gagné 1 million d'âmes pour toi. Ça n'a rien à voir, absolument rien. La seule chose en laquelle je me confie, c'est sa grâce, sa promesse, sa parole. Seigneur, tu as dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Tu as dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Quand ma tête s'appesantira sur l'oreiller et que la sueur froide de la mort ruissellera sur mon front, il sera là. Aussi sûr que je suis ici devant vous, il sera là. Quand j'aurai prêché ma dernière prédication, que j'aurai fermé ma Bible et que je m'éloignerai pour la dernière fois, que le travail sera terminé. Il sera là, oui, monsieur. Et aussi sûr que je crois qu'il va venir, quand il reviendra, j'y serai aussi. Oui, monsieur. Non pas parce que je le mérite, mais parce que lui l'a mérité pour moi. Et je l'accepte en me fondant sur sa parole éternelle. Et c'est ce qui me fait savoir qu'il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Ça ne dépend pas du bruit que je peux faire, ni de ma belle manière de m'exprimer. J'aurais beau être le plus grand prédicateur du monde, j'aurais beau avoir ressuscité les morts, quoi que j'aie pu faire, ça n'a rien à voir. C'est parce qu'il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose ici à l'intérieur qui a ôté de mon cœur toute la vieille jalousie et l'amertume et la méchanceté et tout. Et maintenant, je l'aime simplement, jour et nuit. Il s'est passé quelque chose. Je désire le voir un jour. Je désire la même chose pour vous. Petite Église, alors que vous luttez maintenant pour le royaume de Dieu, ne flanchez jamais en ce jour-ci. Si vous flanchez, repentez-vous plus vite. Reprenez tout de suite votre position. Voyez, si vous vous blessez à l'orteil, ne tombez pas. Si vous tombez, relevez-vous. Relevez-vous. Oh là là, relevez-vous. Certainement. Si vous avez fait une erreur, maintenant, ces réunions de réveil que nous aurons prochainement, vous vous êtes éloigné, vous vous êtes refroidi et devenu indifférent. Réveillez-vous, prenez votre Bible. Allez dans le champ de pommiers quelque part. Retirez-vous quelque part et dites, « Oh Dieu, me voici maintenant. Je suis désolé de cette chose-là. » Vous allez recevoir une correction pour ça. N'oubliez pas. Oh oui, vous récolterez ce que vous aurez semé. Oui, monsieur. Mais quoi que vous fassiez, prenez votre correction ici. Relevez-vous tout de suite. Redressez-vous et dites, « Père, me voici. » Corrige-moi comme bon te semblera, Seigneur. Me voici. C'est exact. Ensuite, repartez avec un Alléluia dans le cœur. Si Dieu vous administre une correction, dites simplement, « Oui, Seigneur, je l'ai bien mérité. » Continuez simplement à avancer. Dieu vous mènera à bon port. Ce sera terminé un de ces jours. Je pense à ce bon vieux cantique que frère Neville et les autres chantaient autrefois. J'en aurai bientôt terminé avec les soucis et les épreuves. Oui, c'est vrai. Combien l'aime? Levez la main. Très bien. Donne-nous la note. Grâce infinie. Que tout le monde reste bien tranquille un instant. Lentement maintenant. J'entendais le vieux Doc Davis autrefois, et beaucoup d'autres. J'ai entendu beaucoup des vieux saints, quand ils arrivaient au bout du chemin, après avoir passé au travers, et que leur ministère était arrivé à maturité. Je les ai entendus parler de la façon dont ils se sentaient. Je commence seulement à en prendre conscience maintenant. Amen. Je commence seulement à en prendre conscience. Oh, comme que c'est merveilleux. À quoi est-ce que je m'accrocherais aujourd'hui? Où irais-je? Où allez-vous? Amen. Qu'est-ce que je ferais? Où? Qu'est-ce qui m'arriverait aujourd'hui sans Christ? Où ancrerais-je mes espérances? Je serais fou allié quand je vois ce qui est sur le point d'arriver, savoir que ce serait comme ça pour toujours. Oh là là, qu'est-ce que je ferais? Oh, je suis si heureux. Je suis si heureux. C'est seulement l'aube du jour. Nous sommes seulement dans un rêve. Nous allons bientôt nous réveiller. Oh, comme dans un cauchemar, pour en sortir et se retrouver au printemps, une jeunesse éternelle, une santé éternelle, une joie éternelle, une paix éternelle. N'est-ce pas merveilleux? Il est si réel. Je me demande, combien ici sont malades et voudraient qu'on prie pour eux? Levez la main. Très bien. Je veux vous dire ce qui est arrivé la semaine dernière. Des choses absolument extraordinaires sont arrivées au cours de la réunion, sur l'estrade, bien entendu. Et je suis en train d'accéder à un genre de choses. On dirait que c'est plus grand qu'auparavant. Je suis venu sur l'estrade et Dieu a donné un don prophétique qui peut... Ça, c'est indiscutable. Je peux vous le prouver ici même. Voyez, ça, c'est indiscutable. Mais je vois qu'il ne fait pas le travail comme il faudrait, parce que ce n'est qu'un don. Et une autre chose, il s'agit d'un individu, vous voyez, ça se rapporte à un individu, par l'entremise d'un don. Mais l'autre jour, j'ai fait quelque chose, j'ai essayé d'amener les gens d'Oakland, simplement au point où, au grand stade là-bas, j'ai dit seulement sa présence, et je m'en suis tenu strictement à la parole. Et j'ai réussi à amener les gens. Vous savez quoi? Il y a eu plus de guérisons, je crois, que tout ce que j'ai vu jusqu'à présent au cours d'une seule réunion. Hormis les grandes réunions comme en Afrique et autour, comme ça, mais par rapport au nombre de personnes présentes. Les gens reconnaissaient simplement la présence de Dieu à la réunion. Ils restaient simplement assis là et ils entraient dans la présence de Dieu. Et les gens se levaient, guéris. Des yeux qui louchaient étaient redressés. Et, oh, je crois qu'il viendra un temps où, Paul a dit, la prophétie prendra fin, les langues cesseront. Je crois qu'il viendra un temps où, quand les saints se réuniront comme ceci, un esprit d'amour envahira tout simplement l'auditoire. Et tout simplement, toutes les personnes présentes, tout ce qui est mal sera ôté d'eux. Il y aura une telle présence du Saint-Esprit. Je crois que, bien que maintenant, nous devions leur imposer les mains et prier pour eux. Il s'agit d'un contact peut-être, d'un prédicateur qui est loin et qui impose ses mains, simplement pour une bénédiction de Dieu. Mais je crois qu'il viendra un temps où l'Église de Dieu sera tellement appelée à sortir comme ça, que les saints seront assis ensemble, et alors le Saint-Esprit entrera simplement, et il se déplacera sur l'auditoire, tout comme au jour de la Pentecôte, voyez? Et qu'il guérira les gens, tout simplement, et ressuscitera les gens, et des choses glorieuses. Je commence à voir ces choses arriver, parce que, je vais vous dire pourquoi. Des hommes sont allés de l'avant avec des dons, c'est vrai. Je n'ai aucun doute à exprimer là-dessus. Je ne suis le critique de personne. Ce qu'ils croient, ça les regarde, voyez-vous. Mais j'ai vu des hommes doués de grands ministères. Mais ils sont allés de l'avant et ils en ont fait ni plus ni moins qu'une... Bon, je le dis avec respect et avec amour. Et Dieu sait que c'est du fond du cœur, voyez. Ils en ont fait plus une espèce d'entreprise pour récolter des gros sous, vous voyez, simplement de rassembler des gens en voulant présenter quelque chose d'une grande envergure. Et peut-être que cet argent-là, ils l'avaient dépensé, et, eh bien, peut-être qu'il n'y a pas de mal à ça. Mais moi, il me semble, ils disent, eh bien, la fin est proche, les gens, à quoi va leur servir leur argent? D'accord, mais vous, à quoi va-t-il vous servir? Voyez? Alors, ce qu'il faut, c'est d'apporter l'évangile aux gens, vous voyez, de prêcher. Je crois que si seulement nous, et les dons, Voyez-vous, les signes. Bon, une personne peut venir ce matin, se tenir en chair ici et opérer de grands miracles et des signes. Ça ne veut même pas dire que cette personne-là est sauvée. Les démons opèrent des signes et des prodiges. Bien sûr qu'ils le font. Bien sûr qu'ils le font. Et la Bible dit qu'ils feraient plus que ça au dernier jour. Eh bien, Jésus a dit, « Plusieurs viendront à moi en disant, « Seigneur, n'ai-je pas chassé des démons par ton nom? Et n'ai-je pas fait ceci? Et n'ai-je pas fait cela? Et toutes ces choses? » Il a dit, « Je ne l'ai pas su. Retirez-vous de moi, vous, ouvriers d'iniquité. » Voyez? Je crois que l'heure vient, à chacun la manifestation des dons a été donnée pour l'utilité commune. C'est vrai, je crois que les dons, c'est merveilleux. Nous en avons besoin et nous les respectons. Mais je crois que l'heure vient où ce sera un niveau plus élevé que cela. Eh bien, après que toutes ces choses auront disparu, c'est l'amour. Voilà ce qui demeurera pour toujours, voyez? C'est l'amour de Dieu. Nous serons là à prêcher, tout simplement, comme ceci, ou à parler, et l'amour va simplement s'installer partout dans le bâtiment. Oh là là! Voyez-vous, aujourd'hui, c'est le jour de la prédication. Aujourd'hui, c'est le jour où nous devons aller chercher les pécheurs et les sortir de là. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà à quoi sert la prédication de la parole. C'est pour les pécheurs et pour les sortir de là. Or, nous devons observer là, et nous, les signes et les prodiges s'accomplissent par l'imposition des mains et tout, parce qu'il s'agit de prêcher. Mais je crois que l'heure vient là où elle est bientôt, l'Église est bientôt prête, bien ancrée. Voyez, Dieu n'aura pas un corps difforme, il n'aura pas une main de 6 doigts, il n'y aura que 5 doigts à la main. Le corps de Christ ne sera pas difforme. Et quand la dernière personne sera entrée dans le corps de Christ, alors c'est terminé. C'est terminé. Je ne sais pas laquelle ce sera. Il se pourrait que celle-ci ait été la dernière ce matin. Il se pourrait que vous ayez été la dernière. Peut-être que là-bas, en Afrique, aujourd'hui, on fera entrer la dernière. Mais quand ce sera fait pour la dernière personne, je veux dire, vous aurez beau continuer à prêcher l'Évangile, mais il n'y aura pas de réaction. Voyez-vous, il n'y a pas de réaction. Je parlais avec Billy Graham et les autres, alors qu'ils sont allés quelque part, où 30 000, 20 ou 30 000 personnes s'étaient converties. Un an plus tard, ils ne pouvaient plus en trouver 20 ou 30. Pensez donc à ça. Voyez, voilà précisément ce qui fait de moi un calviniste. Voyez, ce que Dieu a fait, Dieu l'a fait. Maintenant, Jésus n'est jamais venu sur terre simplement pour dire « Je vais envoyer des prédicateurs prêcher un peu, parler aux gens de ce que j'ai fait, et peut-être que quelqu'un va me prendre en pitié et être sauvé. » Dieu ne dirige pas son bureau comme ça. Dieu, là au commencement, il savait exactement qui serait sauvé. Jésus est venu sauver ceux dont Dieu savait qu'ils seraient sauvés. Il ne voulait pas qu'ils soient perdus. Mais comme il est Dieu, il savait qui serait perdu et qui serait sauvé. C'est pourquoi il pouvait prédestiner. Non pas prédestiner, il savait par sa préscience, il pouvait tout mettre en place pour que toute chose concourt à sa gloire. En effet, c'est le diable n'est ni omniprésent ni omnipotent, pas plus qu'il ne connaît la fin dès le commencement. Il n'y a que Dieu qui la connaisse. Ça, c'est un fait. Dieu est tout simplement ici en haut. Il sait. Le diable ne sait pas ce qui va arriver. Il ne sait pas ce qui va arriver. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il est le diable, simplement. Et il fait ce qu'il peut, c'est tout. Et partout où il peut faire des siennes, il en fait. Mais Dieu connaît la fin. Amen. Alors, comme Dieu connaît la fin, il peut tout faire concourir parfaitement à sa gloire. Amen. Oh, je l'aime. Oh là 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 là. Voyez, il est Dieu. Alors, souvenez-vous, quand la dernière personne dont votre nom a-t-il été mis dans le livre de vie de l'agneau? Hier? L'an dernier? Il y a 2 ans? Non, monsieur. Quand le monde a été créé, votre nom a été mis dans le livre de vie de l'agneau. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit dans l'Apocalypse, « Et l'Antichrist séduisit tous ceux qui habitaient sur la surface de la terre, dont les noms n'avaient pas été écrits dans le livre de vie de l'agneau dès la fondation du monde. » C'est à ce moment-là que votre nom a été écrit. Maintenant, la seule chose, vous dites, à quoi sert la prédication de l'Évangile dans ce cas? Eh bien, la Bible l'explique clairement. Voyez, il a dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui partit avec son filet pour aller à la mer ou à un lac. Il jette son filet à la mer et le ramène. Voilà ce qu'est la prédication de l'Évangile. Voyez, il y a une mer entière. Les États-Unis sont un lac. Et les prédicateurs, alors je pars et je m'installe ici à Jeffersonville, à ce coin-ci du lac. Je dis, Frère Neville, tu pêches à la Seine? Oui. Est-ce que tu as du succès? Pas trop. Eh bien, nous, je vais pêcher à la Seine avec toi pendant un moment. Et je jette mon filet, et il jette le sien. Et là, nous tirons, nous prêchons, nous en ramenons. Un groupe de gens s'avance, ils disent, « Oui, je veux accepter le Seigneur Jésus. » Très bien. On regarde ça. Les poissons, c'est lesquels ? Lequel ? Je ne sais pas. Voyez ? Eh bien, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire ? Eh bien, je pars en Californie. Le Seigneur m'a envoyé en Californie. Je vais pêcher à la Seine là-bas pendant quelque temps. J'y vais et je jette mon filet comme ceci. J'enfonce bien et 1500 personnes s'avancent d'un seul coup. Est-ce qu'ils étaient tous sauvés ? Je ne sais pas. Les voilà. Je retire le filet. C'est le filet de l'Évangile. Certains d'entre eux, la Bible dit qu'il y avait toutes sortes de choses dans l'eau. Ils respiraient tous dans la même eau. Ils vivaient dans la même eau. Pas vrai ? Voyez, il y avait des tortues d'eau douce, des tortues bourbeuses, des serpents, des grenouilles, des lézards, des poissons vidangeurs et de vrais poissons. Or, ceux qui étaient des poissons quand le filet de l'Évangile les a attrapés étaient des poissons quand ils étaient sur la rive. Ceux qui étaient des tortues d'eau douce dans le filet de l'Évangile étaient des tortues d'eau douce sur la rive. Avant longtemps, ils retourneront de nouveau dans la boue, comme le cochon à son bourbier et le chien à ce qu'il a vomi. Les voilà repartis, voyez ? Mais au commencement, ils étaient des tortues d'eau douce, au départ. Ce n'est pas à moi de dire qu'ils sont des tortues d'eau douce, je ne sais pas. Je me contente de pêcher à la Seine, vous voyez ? Je ramène le filet, c'est tout. Mais quand le dernier poisson sera sorti de l'eau, frère, c'est terminé. Oh, le Seigneur lui-même viendra, dira, le travail a été fait. Tantôt nous serons postés ailleurs. C'est exact, oui monsieur. Il dira, le travail a été fait et c'est terminé, c'est fini. Une fois que le dernier sera sorti, il y a eu tout un tas de bourbiers à cochons partout et tout. Dieu fait sortir des poissons de là à toute vitesse. Les prédicateurs arrivent de tous côtés, ils lancent les filets de part et d'autre. Même que nous nous prenons les uns les autres dans nos filets, nous tirons de toutes nos forces en pêchant à la Seine. Elle est bientôt prête. Il fera sauter le vieil étang un de ces jours, et ce sera fini pour elle. Mais le poisson ira vers les bonnes eaux claires là-bas, où ils auront la vie éternelle pour toujours. Amen. Oh, quand le dernier entrera. Oh là là. Comment ? Quel privilège ! Que Dieu dise ! Aimerais-tu être un poisson ? Amen. Aimerais-tu être un poisson sur ma table ? Aimerais-tu venir être un mets sur ma table ? Oh là là ! Bien sûr, Seigneur. Voyez, mais ils ont une nature de poisson. Voyez, quand vous êtes chrétien, vous avez une nature de chrétien. Vous n'avez pas besoin de dire, « Bon, tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit de fumer, tu n'as pas le droit de boire, tu n'as pas le droit de faire ça. » Vous n'avez pas besoin de le dire. Ils ne le font pas de toute façon. Voyez, leur nature est différente. L'Esprit de Christ est dans la personne. Et Christ ne fait pas ces choses-là. Voyez, vous dites, tu dois aimer le Seigneur, tu devrais aller à l'église. Vous n'avez pas besoin de dire ça à ces gens-là. Ils y vont de toute façon. Ils y iront à pied, sous la pluie. Ils y iront. Ils sont à l'article de la mort. Ils vont à l'église. Certainement, ils aiment ça. Il faut absolument qu'ils y aillent. Un point, c'est tout. C'est leur vie. S'ils n'y vont pas, ils ont l'impression d'être en train de périr. Certainement. Oui, monsieur. Il faut absolument que vous y alliez. Et chaque fois, c'est tout simplement quelque chose qui brûle dans votre cœur. Pas d'y aller pour vous disputer, là. Pas d'y aller pour faire des histoires. Mais d'y aller pour adorer. Oh là là. Et vous rentrez chez vous rafraîchi. C'est une vie merveilleuse, n'est-ce pas ? Combien ont expérimenté cela ? Faites voir votre main. Oh, c'est ça, Gertie. Chantons-le. Paix, paix. Je voudrais que vous fassiez quelque chose maintenant. Les personnes qui sont assises à côté de vous, serrez-leur la main. Dites que Dieu te bénisse, frère, sœur. Je veux te revoir au ciel. Maintenant, pendant que nous allons chanter le couplet suivant, est-ce que les malades pourraient se mettre en ligne, ici en avant, maintenant, pour qu'on prie, ici, de ce côté-ci? Et j'aimerais demander au prédicateur de bien vouloir s'avancer, pour nous aider à prier pour les malades. Mettez-vous en ligne, sur la droite, venez de ce côté-ci. C'est ça, sur la droite, ceux pour qui on doit prier. Donne-nous la note pour le grand médecin, s'il te plaît, Sir Gertie, si tu veux bien.
Now, I want to ask you something. I get permission.
Maintenant, je voudrais vous demander quelque chose. Je m'occuperai de cela, oui, monsieur. Est-ce que vous venez en appréhendant, ou plutôt en vous attendant à être guéri ce matin? Est-ce que c'est ça qu'il y a dans votre cœur, vraiment au fond de votre cœur? Si vous venez de cette façon-là, mon ami, je vous garantis que votre guérison est tout aussi certaine que votre salut, tout aussi certaine. Or, votre guérison n'est pas aussi permanente que votre salut. Votre guérison vous fera défaut. Vous pouvez être, si vous êtes guéri, vous serez encore malade. Vous pourriez être guéri aujourd'hui d'une pneumonie, en parfaite santé et bien portant, déclaré bien portant par le médecin, et mourir d'une pneumonie la semaine prochaine. C'est vrai? Vous pourriez être complètement débarrassé de la tuberculose cette semaine, et mourir de la tuberculose dans 2 mois. Ils pourraient faire une analyse et ne pas trouver un seul microbe dans votre corps. Et puis, 2 semaines plus tard, mourir de la tuberculose. C'est exact, voyez? Il vous faut mourir de toute façon. Mais les bienfaits. David s'est écrié, « N'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Bienfait. Quel est le bienfait pendant le voyage? C'est lui qui pardonne toute mon iniquité. L'iniquité, c'est quand on va faire quelque chose alors qu'on sait qu'on n'aurait pas dû le faire. Il le pardonne. Vous le lui demandez, il vous pardonne. Il pardonne toute mon iniquité qui guérit toutes mes maladies. Maintenant, je veux régler cette question-là pour toujours. Alors quelqu'un dira, « Frère Branham, croyez-vous à la guérison divine ?» Maintenant, permettez-moi de dire ceci, avec tout mon bon sens et ma raison. Je voudrais qu'une personne, un médecin, un scientifique, quelque part, Je les invite à venir à cette chaire au cours des réunions de réveil, me montrer un seul endroit où qui que ce soit ait jamais été guéri autrement que par la guérison divine. Je veux que vous alliez voir votre médecin ou qui vous voudrez et indiquez-moi une seule personne qui ait jamais été guérie autrement que par la guérison divine. Je veux que vous m'apportiez le médicament qui peut guérir. Je veux que vous m'ameniez le médecin qui dit qu'il est guérisseur. Il sera guérisqueur. Ça d'accord, guérisqueur. Le médecin guérisqueur. Mais Dieu est le seul qui puisse guérir, qui n'est jamais guéri et qui guérira jamais. Si nous possédions un médicament qui puisse guérir, nous pourrions construire un homme ici même sur cette estrade avec ce médicament. C'est exact. Nous pourrions construire un homme, le créer ici même sur l'estrade. Pensez donc à ça. Toute guérison est une guérison divine. Dieu a des façons de procéder. Bon, vous dites, « Eh bien, frère Branham, j'ai été opéré d'une tumeur ou de l'appendicite. Si le médecin ne l'avait pas enlevé, je serais mort. » Peut-être bien, c'est probablement la vérité. Mais saviez-vous que le médecin ne vous a jamais guéri? Le médecin a ôté l'obstruction. Il a enlevé l'appendice, c'est tout. C'est ça qui vous faisait mal. Mais il n'a pas du tout opéré la guérison. Vous vous cassez le bras. Vous dites, « Je me suis cassé. » Je vous parie que si vous vous cassiez le bras, vous iriez chez le médecin. Bien sûr que j'y irais, mais il ne pourrait pas le guérir. Qu'est-ce qui se passerait si j'allais lui dire, « Docteur, guérissez mon bras au plus vite. Il faut que j'aille réparer ma voiture cet après-midi. » Voyez, voyons donc, il saurait que j'ai besoin d'une guérison mentale. Il dirait, « Je peux vous plâtrer le bras. » Mais qui opère la guérison? Vous dites, « Frère Branham, qu'en est-il de la pénicilline quand on vous en fait prendre pour une maladie, des microbes dans votre corps, comme une maladie vénérienne, et ce que vous pouvez avoir, une pneumonie? Est-ce que la pénicilline ne guérirait pas? » Non, monsieur. La pénicilline est un antibiotique. Et l'antibiotique tue. Tous les autres médicaments tuent. Le médicament ne construit pas, il tue. Le médicament tue, il ne guérit pas. Montrez-moi un médicament qui guérit. Montrez-moi un médicament qui ne tue pas. Et vous n'avez pas de médicament. Le médicament tue, il tue les microbes. C'est comme si vous aviez des rats dans votre maison et que vous mettiez de la mort aux rats. Les rats faisaient des trous dans la maison à force de ronger. Bon, la mort aux rats tue les rats, mais elle ne répare pas votre maison. Voyez, la pénicilline tue le microbe, mais Dieu doit guérir l'endroit que le microbe a ravagé. Vous voyez ce que je veux dire? De toute manière, la parole de Dieu, nous allons approfondir cela. La parole de Dieu ne peut pas se contredire. Elle est l'absolue vérité. Je voudrais bien qu'une personne vienne mettre le doigt sur la parole, n'importe quand pendant les réunions de réveil, me montrer une contradiction dans la parole de Dieu, où elle se contredirait, que ça ne puisse pas être résolu par la parole de Dieu. Il n'y en a pas, c'est sûr, il n'y en a pas. Il n'y a aucune contradiction dans la parole du tout. Absolument. Vous pouvez prendre un sujet. Je pourrais vous écrire une lettre et vous dire quelque chose. Vous écrire une autre lettre, puis une autre lettre. À un moment donné, ces deux-là traitent de deux sujets différents. Voyez? Certainement. Mais Dieu est le seul qui ait jamais guéri, qui guérira jamais et qui puisse jamais guérir. Si vous vous cassiez le bras, là, je dirais, « Eh bien, j'ai une tumeur. Qu'en est-il de ça? » Bon. Alors, si ce petit endroit où la tumeur s'est accrochée, si Dieu, en chassant le méchant, la vie sort de cette tumeur, elle mourra. Si le médecin l'enlève, alors Dieu doit guérir l'endroit où le médecin a coupé. Sinon, vous perdriez tout votre sang, pas vrai? Qu'est-ce qui se passerait s'il vous enlevait l'appendice et que Dieu ne vous guérisse pas? Alors, qu'est-ce qui se passerait? Vous mourriez tout de suite. Bloquez une des canalisations de la rue ici. Allez boucher une des canalisations. Et vous allez voir dans la rue ici, la bouche d'égout. Regardez bien ce qui va se passer. Allez boucher une conduite ici. Fermez le robinet principal, un des robinets, et observez ce que ça fera. Ça fera tout sauter ici à la station de pompage. Il n'y a nulle part, rien, pas un système au monde qui soit comparable au corps humain. Mais vous pouvez sectionner une artère, la pincer avec un clip là, et Dieu pourvoira du moyen d'éviter d'utiliser ce sang pour ensuite le ramener dans l'artère de nouveau. Sinon, au bout d'une minute, s'il refluait et arrivait au cœur, vous seriez mort comme ça à la première égratignure. Qui est le guérisseur? Oh là là, Dieu est le guérisseur. Vous voyez, on n'arriverait pas à faire fonctionner aucun système mécanique de cette façon-là. Ça ne peut être que surnaturel. Les artères de mes deux jambes avaient été transpercées par un coup de feu. Voyez. Et Dieu, là-bas, moi qui étais pécheur, encore tout jeune, je me mourrais dans le champ. Dieu savait qu'il voulait que je prêche l'Évangile. Il a mis le sang en attente. Je n'en ai même pas le souvenir, à moins que quelqu'un m'en parle, ou qu'il m'arrive de regarder là et de voir la cicatrice. Voyez, Dieu dans les artères. Rompez le conduit principal ici, à la pompe ici, à la station de pompage, et observez ici au gouvernement ce qui se passera. Ça va refluer jusque-là et le faire sauter. Assurément, cette eau qui descend avec force comme ça, elle va refluer tout de suite. Mais Dieu produit un évitement pour contourner. Qui fait cela? Quelle intelligence fait cela? Montrez-moi un réseau de distribution d'eau qui fera cela. Alléluia! C'est l'intelligence de Dieu. C'est le grand Créateur qui fait cela. Absolument. Qu'est-ce qui fait qu'un arbre est différent de l'autre? Qu'est-ce qui fait que la couleur d'un oiseau est différente de celle de l'autre? Qu'est-ce qui fait que son langage est différent? Qu'est-ce qui fait de nous ce que nous sommes? C'est une intelligence. C'est Dieu. N'ayez pas peur, là. C'est sa promesse à lui. Ce n'est pas Frère Branham. C'est sa promesse à lui. Je suis l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. Si quelqu'un est malade, qu'on appelle les anciens de l'Église, qu'ils les oignent d'huile et prient pour eux. La prière de la foi sauvera les malades. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains aux malades, ceux-ci seront guéris. Ensuite, une fois qu'on a suivi cette directive, alors acceptez-le exactement comme vous le feriez pour ce qui est de vous repentir ou de vous faire baptiser ici. Repartez tout de suite en disant « C'est une œuvre terminée, c'est fini ». Voyez? Mais nous attendons de voir arriver un grand miracle extraordinaire. Il arrive, effectivement, quand il y a la foi qu'il faut pour le susciter. Mais s'il n'y a pas la foi qu'il faut pour le susciter, il arrivera de toute façon, après quelque temps. Regardez ce que Jésus a dit, la traduction là, quand il a parlé de la montagne. Il a dit, après quelque temps, cela s'accomplira. Si vous demandez que cette montagne se déplace et que vous croyez dans votre cœur qu'elle le fera, il a dit, après quelque temps, cela s'accomplira. Voyez, cela s'accomplira. Maintenant, vous êtes malade, vous êtes mourant, beaucoup d'entre vous, mal en point. Je vois qu'ils soutiennent un homme ici en ce moment. Cet homme est très malade. Le cancer est une chose horrible, mais Dieu peut guérir le cancer. Oh, je pourrais vous montrer dans cette salle. Combien ici ont déjà... Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà été guéri du cancer? Levez la main. Regardez-moi ça, c'est partout dans l'Église. Voyez? Bien sûr, partout. Nous les avons fait venir parce que Dieu est le guérisseur. Maintenant, chacun de vous, là dans l'auditoire, pour montrer votre reconnaissance, je voudrais que vous courbiez la tête. Je voudrais que vous priez. Fréneville, viens. Et maintenant, pendant que vous... Je voudrais que les anciens s'avancent pour que nous prions pour les gens. Et quand vous passerez devant, ici, faites ceci, là. Quand vous passerez devant... Croyez de tout votre cœur et croyez-moi simplement. Ne me croyez pas moi, mais croyez la parole de Dieu. Croyez simplement de tout votre cœur. C'est réglé, c'est fait, c'est fini. Dieu l'a dit, sa parole l'a dit. Elle ne peut pas faillir. Comment je me sens, peu m'importe. Je vais continuer de toute façon à dire que c'est la vérité. Et regardez bien ce qui va se passer. Mais vous voyez, si nous reculons et que nous disons que nous passons dans la ligne de prière comme ceci, ça n'arrivera tout simplement jamais. C'est tout.